Bonsoir, bonsoir à tous, la spéciale Ligue 1, on est ensemble jusqu'à 22h30, voire plus, si affinité, c'est les vacances, on peut se permettre ça, on est tous là, tous présents pour parler de Ligue 1, on va parler de du classique, de cette Ligue 1 qui s'est pas dérouler hier soir, donc reporté pour de grippe A dans l'effectif parisien, on sait tout ça. Les équipes surprises, on va en parler, ces petites équipes qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, comme Monaco, comme Serre, comme Montpellier, comme les Lorientais, chers à Jean Dallard et Aurélien. On va parler de Toulouse, on a des Toulousains avec nous, je vous en dis pas plus, on va les présenter tout de suite après. On a deux Toulousains avec nous, et on va finir par les équipes, comme dit Touko, les équipes qui ont la caravane au cul. Voilà. Donc,
ah, j'ai dit ça, moi.
Ah oui, tu l'as dit.
C'est même écrit.
Voilà, donc les équipes qui ont la caravane au cul, bonsoir à tous, vous les avez entendus, vous avez entendu Touko.
Oui, bonsoir, je vais tenter de ne pas être la Isabelle Moreau de Régénération Soccer, hein. Bonsoir, c'est beaucoup, hop.
Vous avez aussi entendu Yak.
Ouais, salut.
Vous n'avez pas entendu Mathieu.
Salut.
Salut Mathieu, alias Palenka, on a aussi les deux cousins, on a Julien.
Ouais, bonsoir à tous les gars.
On a aussi Anne, donc.
Bonsoir à tous.
Attention, là, parce que quand il y en a un, plus un, ça va, mais quand il y en a un trop, ça va plus, hein. D'ailleurs, vous correspondez pas trop au prototype, hein. Et le dernier, c'est Hugo.
Ah, par contre, je veux bien être Isabelle Moreau ce soir, hein.
Ah, bah, pas moi. Salut Hugo. Donc je pense qu'on a fait le plein, on va pouvoir commencer par le classique, donc OM-PSG qui ne s'est pas joué hier soir à cause de 4 cas de grippe A dans l'effectif parisien, 3 pardon, Sako, Julie, Clément et donc le quatrième c'est un membre du staff. Donc le match est...
Il y a Loris Arnaud qui aussi.
Loris Arnaud, excusez-moi, donc Loris Arnaud en plus ça fait bien 4 plus...
T'as bien fait de le préciser.
Et le Magasinier aussi, non?
Même si je sais pas si on peut compter Loris Arnaud comme un joueur de foot, mais bon, on va citer Loris Arnaud quand même. Donc pardon. Le match annulé, je pense qu'on est tous d'accord, les mecs, la fille aussi, que c'est pas une mauvaise décision l'annulation en soi, mais le fait d'annuler le jour même, alors que des milliers de supporters avaient fait le déplacement de toute la France, les Parisiens, tous les supporters parisiens étaient arrivés à Marseille, et en plus, ça a créé les petites bagarres, c'est les bagarres même, on peut dire, dans les rues de Marseille l'après-midi. C'était prévisible en plus, on peut dire, donc une mauvaise décision de la Ligue d'avoir pris acte de ça le dimanche. Donc sachant que il y avait déjà 3 cas la veille, ça aurait pas été scandaleux de prendre ces mesures le samedi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que vous allez pas me contredire là.
Si, donc, moi je vais te contredire en fait.
Vas-y.
Parce qu'en fait la veille il y avait que 2 cas, donc c'est pour ça que le match ne pouvait pas être annulé. Comme Montpellier, quand il y avait qu'un seul cas, ça n'a pas été annulé. Et en passant à 3 cas le lendemain, c'est pour ça que ça a été annulé. Donc forcément, je vois pas trop ce qu'on peut reprocher à la Ligue, parce que s'il l'annule pour 2 cas, on va dire que c'est pour protéger le PSG, parce que Montpellier, ça n'a pas été annulé. Et après, peut-être qu'il y a eu une mauvaise gérance des grippés, on va dire, par le PSG, parce que moi, je comprends pas qu'un mec grippé, il fasse le voyage. Par exemple, je comprends pas ce que faisait Clément dans l'avion, alors qu'ils avaient des suspicions sur son cas. Mais sinon... Sinon la Ligue, je vois pas vraiment. Après, on va pas dire que c'est de leur faute s'il y a des débiles qui trouvent rien mieux qu'à faire que se taper en plein après-midi parce que le match est pas joué. Et c'est, enfin, voilà.
Ou alors tout simplement c'est une tactique PSG. Il y avait déjà 2 joueurs blessés, ils ont voulu rajouter un 3e pour pouvoir reporter le match, que l'équipe revienne un peu au meilleur de sa forme. Tout simplement. Peut-être aussi.
Je vais dire autre chose que Loris Arnaud. Excuse-moi, mais ça compte pas Loris Arnaud. Ils auraient pu prendre, je sais pas, Coupé ou un autre joueur, mais pas Loris Arnaud.
Le 3e, c'est Clément.
C'est Jérémy Clément, le 3e. C'est pas Arnaud.
Clément a fait le déplacement parce que il fallait qu'il fasse le 4e aux cartes, parce qu'on l'a vu en train de jouer aux cartes sur des photos.
Oui, il me semble que tu voulais intervenir par rapport à ce qu'a dit Anne, en tout cas.
Non, oui. Non, pas. enfin en général en fait moi je trouve le report en fait il est bah c'est vrai que c'est dur parce que c'est quand même particulier, il faut traverser la France du nord jusqu'au sud pour se rendre au Vélodrome et ensuite le jour même t'apprends que finalement il y a pas le match alors qu'il y avait eu un début de communiqué qui disait que ouais si il était maintenu quoi qu'il arrive mais donc moi concernant le report en lui-même moi je trouve il est justifié parce que tu peux rien faire quand il s'agit de santé quand il s'agit de santé publique, bah tu peux que te plier aux décisions. Mais donc voilà, je trouve le report en lui-même il est justifié. Ensuite c'est la Ligue qui s'est déchirée puisque ils avaient annoncé un truc dans un premier temps et ensuite ils ont été contraints de faire demi-tour. Mais bien sûr, hein, ça explique en rien les incidents. De toute façon, si ça avait pas été ça, ça aurait été autre chose. De toute façon, on sait bien que les supporters, c'est bon, 80% c'est des têtes de cons. Donc ils auraient trouvé un prétexte pour faire les marioles et tout pour créer des incidents. Donc grippa, pas grippa, annulé, pas annulé, il y aura eu quand même des trucs donc voilà quoi c'est voilà match annulé logique mais pour petit problème de timing pour la ligue quoi.
Bon, alors moi il y a un truc que je comprends pas. Bon alors déjà petite parenthèse, je trouve qu'on en fait un peu trop sur cette grippe A. Les médias ils en font un peu, ils prennent ça comme un virus Je suis une légende ou Resident Evil, on va tous mourir, on va tous devenir des monstres, enfin bref, ils en font beaucoup. Donc ça a dû influencer la Ligue parce que l'opinion publique a un petit peu peur de ça. Bon, mais ce qu'il faut voir, c'est que la Ligue a pris cette décision par rapport à les décisions de... Enfin, un avis médical de professionnels de la santé. Alors, ces professionnels de la santé, le samedi, donc il y avait deux cas officiels, ils disent « Ok, on peut jouer le match ». Le dimanche, il y a un cas de plus, donc ok, c'est un cas de plus, mais c'est jamais, il y en a un seul, quoi. C'est pas comme si il y avait la moitié de l'équipe du jour au lendemain, il y en a un de plus, et d'un coup d'un seul, ils donnent un avis négatif quant à au déroulement du match. C'est ça que je trouve un petit peu bizarre, quoi. C'est pourquoi quand il y en a deux, on joue, et quand il y en a trois, on joue pas. Voilà.
C'est comme l'a dit Anne, c'est les mesures qui doivent être prises. Mais je pense que dans un match comme celui-ci, qui est pas un match comme les autres,
arrête, attends. Vas-y quoi. Non mais continue. Mais je sais ce que tu vas dire. Mais vas-y.
Il faut prendre certaines choses en considération, quoi. C'est deux. Bah, le fait que c'est un match particulier, on sait que l'annonce de l'annulation du match en plein après-midi le dimanche, on savait tous que ça allait déclencher ce que ça a déclenché.
Mais non, mais attends, parce que moi ce que je comprends pas c'est toujours la même chose dans ce pays. En fait, il y a toujours des excuses, tu vois. Ouais, s'il y a eu des incidents, c'est parce que c'est la LFP. Et en fait, il y a jamais, je sais pas, les gens ils sont jamais responsabilisés, quoi. En fait, il faut tout le temps trouver un coupable, genre voilà, c'est parce qu'il y a eu l'annonce de la LFP que ça a provoqué ça.
Non, mais je justifie pas du tout les bagarres dans la rue, mais je te dis que on pouvait pas l'empêcher, on pouvait pas les empêcher ces bagarres, et on savait, tu peux pas le nier, ouais. Tu savais que lors de cette annonce, lors de l'annonce de l'annulation, ça allait encore attiser ça allait encore augmenter l'incertitude dans
c'est
le
pas vrai, c'est ça, c'est l'annonce le dimanche, c'est mal vu parce que les supporters sont énervés, sont déjà sur place, mais c'est clair que ça excuse pas ce qu'ils ont pu faire dans les rues de Marseille, hein.
Bah quelque part vous êtes en train de l'excuser là, parce que vous trouvez un truc, vous dites
je dis juste que l'annonce était malvenue parce que on pouvait pas contrer cette réaction qui allait venir. On savait tous en nous que cette annonce allait provoquer ceci.
Mais voilà, c'est ça. T'as deux responsables. T'as à la fois la Ligue qui refuse le match trop tard, clairement, et ça c'était prévisible. Et t'as les autres coupables qui sont les acteurs de vandalisme et de violence, quoi.
Ouais, ok.
Non, mais je pense que les médecins, ils auraient dû anticiper. Et en voyant qu'il y a un cas, un premier cas, un deuxième, Clément était malade la semaine, et même si c'était pas une grippe A au départ, ben, je sais pas, il aurait pu avoir un peu de un principe de précaution et essayer de d'anticiper et peut-être qu'il aurait, ils auraient pu prendre une décision un peu avant, quoi. Voilà.
Ouais, mais ça on le saura jamais, c'est ça le problème en fait, c'est que maintenant ils peuvent dire ce qu'ils veulent en fait, ils peuvent dire ouais mais on pouvait pas et tout ça, ce que je veux dire c'est cafouillage maintenant, tu vois. C'est dur à retracer quoi l'histoire.
C'est dur. Moi oui. Malgré tout, je trouve bizarre que parce que c'est la grippe A, même s'il y a 3K, 4K, 5K, bon, ce serait la grippe pas A. Moi, je parie ce que vous voulez, que aucun match est annulé, il y a aucune demande d'annulation.
Ouais, mais justement, aucun en fait, c'est parce que, ouais.
C'est là, c'est la grippe A, la grippe où il y a des pubs, diffusées par le gouvernement de partout, des affiches partout, un virus qu'on connaît pas, donc on reporte.
Ah oui, là, c'est, non, mais justement. C'est pas grave. En fait, c'est justement parce qu'en fait, elle est pas connue que qu'il y a tout ce cinéma en fait, parce que comme il y a une majorité de gens qui a pas encore connu la souche, justement là cette souche H1N1, que justement il y a des précautions en fait, alors que les personnes qui sont plus âgées, c'est-à-dire elles l'ont déjà connue en fait, mais ça c'est un peu nouveau pour tout le monde, donc il y a une espèce de il y a d'inconnu qui fait que qu'ils sont obligés de passer un peu pour des deux de tension, mais c'est comme ça quoi. C'est ce que je veux dire.
Ouais, en fait, même le vaccin existe. Bah, voilà, même si c'est un petit peu long à guérir, moi je trouve que ça justifie pas d'annuler un match de foot alors que pour d'autres virus qui sont connus et qui ont lieu tous les ans, comme la grippe bas A, qui est tout aussi dangereuse, on n'a jamais entendu parler de ne serait-ce qu'une réflexion sur l'annulation d'un match, quoi.
Oui. Hugo.
Alors déjà, ouais, la grippe A, ça a réussi à reléguer le sida et le cancer au second plan, comme quoi cette maladie est plus mortelle que le reste. Et puis moi, je pense qu'il y a même l'État qui est un peu derrière, puisque l'État est pour contrer cette maladie, quoi. Dès qu'il y a 3 cas dans une école, elle ferme. Dès que pareil, dans une usine et tout, donc s'ils annulent pas le match, l'État va passer pour des cons, quoi. Tout simplement.
Ouais, moi, je pense que ça, on s'en fout à la limite. On s'en fout de ça, je veux dire, là, ben oui, parce qu'en fait, le truc, c'est pas le coup, à la limite, que le match soit reporté, c'est une chose, mais le tout, c'est qu'ils préviennent à l'avance, c'est tout. Que le match soit reporté, principe de précaution, ils font pareil dans les écoles, partout, donc à la limite, ça, bon. Même si on est d'accord ou pas avec ça, mais qu'il soit reporté, on peut le comprendre. Mais que ce soit annoncé à 14h pour le match à 21h, ça, non, voilà, moi, c'est tout ce que je voulais dire.
Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. 2 cas, on annule pas, 3 cas, on annule. C'est complètement incompréhensible.
D'ailleurs, je vais citer Pedro, une réaction du forum qui reprend exactement ce que vous dites. Il y a qu'est Mathieu. Non, mais la LFP a fait une connerie de dire que le samedi le match était maintenu à 100%. Ils n'auraient jamais dû dire ça le samedi. Ils auraient dû mettre une réserve encore.
Voilà. Ouais, bien sûr. Mais...
Attends, moi je vais juste répondre à un truc. Je vais répondre à une réaction de Julien002. Il dit que c'est pas un argument le fait que Clément jouait aux cartes, qu'il n'a pas fait de l'ordi quand il était malade. Alors moi je lui dis c'est pas un argument, c'est une blague, c'est tout. Donc voilà, c'est une réponse. Voilà.
Oui. Oui.
Quand j'ai dit ça, c'était une, voilà. Parce que bon, moi je prends du recul par rapport à la situation, et c'est pas le cas de tout le monde, quoi.
Ouais, ils ont du mal à te suivre avec ton
non, mais, de... non. Justement, le cas Clément, j'allais répondre à Julien, c'est une blague à la base qu'a fait Mathieu. Excuse-moi.
Non,
on va parler du cas Clément après parce que il y a matière à débattre dessus. Et il y a une réaction de Fab donc qui nous dit bonsoir les gars, bonsoir à toi Fab, le Lensois, RIP hein. D'ailleurs. Si l'annonce en elle-même semble logique, un cas similaire en rugby a eu lieu. La LFP montre l'irrespect des supporters en maintenant le match, surtout celui-ci, la veille et en le reportant l'après-midi même du match. Si le contexte était compréhensible, la forme et la manière où cela a été fait est inadmissible.
Voilà. Ouais, d'où l'intérêt de la réserve. Ils auraient dû mettre une réserve. Ça, je pense qu'on est tous unanimes dessus. Ouais.
Exact. On est quasiment tous unanimes, sauf peut-être Anne, qui n'est pas d'accord avec nous. Et on va pouvoir, on change pas de sujet, on passe juste à un autre, notre sous-partie dans ce thème de MPSG, le cas Clément, donc j'en parlais. Donc Clément, qui, comme Mamadou Sakho, c'était un cas suspect. Donc Sako, lui, n'a pas fait le voyage, mais Jérémy Clément a fait le voyage. Donc c'est assez étonnant. Et voilà. D'ailleurs, comme on a parlé, Julien, c'est pas un argument de dire qu'il joue aux cartes, mais c'est pour la forme, quoi. Il est venu alors qu'il avait pas à venir. Je sais pas votre position par rapport à ça, ou si vous en savez plus, vous avez plus d'infos par rapport au cas Clément.
Ben non, on nous a juste dit, pardon, je coupe, je sais pas qui, oui, non, mais... que dans la semaine il était malade, mais on nous avait certifié que c'était pas la grippe A. Donc oui. Voilà, et apparemment, oui. Donc bizarre. Oui.
Donc voilà pour le cas Clément. Et vas-y Anne.
Ouais, bah moi pour le cas Clément, il y a quelque chose que je comprends pas. C'est que dans la semaine, ils ont trois personnes qui se disent suspects, c'est Clément, Julie et Sako. Ils font des tests sur Julie et Sako. Ils écartent les trois du groupe. Ils font des tests sur les trois. Et pourquoi il y a des résultats qui tombent le samedi et d'autres qui tombent le dimanche? S'ils ont fait les tests ensemble, normalement ils auraient dû avoir tous les résultats le même jour. Pourquoi il y en a qui sont écartés du groupe?
Oui. Il y a eu deux cas vérifiés samedi. À la suite de ça, ils ont refait des tests qui sont arrivés dimanche et il y avait le cas Clément en plus par rapport à la veille, par rapport au résultat de la veille.
Moi, je trouve qu'il y a quand même une mauvaise gérance entre guillemets des médecins du PSG pour écarter deux joueurs, en faire revenir un, puis refaire des tests. Parce que ça a été très mal géré déjà sur ce point-là, je pense.
Ça a été mal géré du côté des dirigeants parisiens par rapport au cas Clément, alors que Sako lui est resté à Paris. Donc oui, il y a un but pour les Avignon, on s'en fiche Hugo, on va changer dans le sujet.
Putain, mais arrête de répéter toutes nos conversations écrites, ils s'en foutent les auditeurs, merde.
c'est privé, c'est vrai.
OK. En plus Noro qui lobe Trévisan, mais moi je lobe Trévisan, hein, faut dire ce qu'il y a,
quoi. Ouais, c'est sûr aussi, même si j'en ai pas.
Donc voilà, par rapport au MPSG, un autre chose, donc le report du match, Deschamps a proposé de jouer mercredi, mais c'est impossible.
Ouais, mais c'est de la provoque un peu. Hein.
Oui, c'est un peu voilà. De la provoque de Didier. Il y a une autre possibilité, ça serait le 2 décembre, sauf que Anigo a déclaré que si le match se jouait le 2 décembre, ça serait la CFA qui jouerait, parce que le 2 décembre est placé entre...
Comment le retour de la CFA.
Ouais, voilà, ça me fait rire en fait qu'il y a un CFA-bisme cette fois-ci.
Ça aussi, c'est de la provoque. Ouais. Parce que le match est intercalé entre les deux matchs de Ligue des Champions contre le Real de Madrid et contre le Milan AC juste avant. Donc le match, pas avant 2010 apparemment, janvier, il y a une possibilité donc en janvier, mais il y a la CAN. Donc il y a toujours des problèmes par il y a toujours un problème par rapport à ça.
Ils vont jouer au parc l'aller au Vélodrome au retour, la grosse carotte.
Justement, Philippe Doucet a dit que sur Canal+ que normalement selon le règlement, on devait jouer un match reporté des matchs aller avant les matchs retour. Mais est-ce qu'ils feront une entorse au règlement spécialement pour ça ou non? Voilà. Oui, Julien.
Ouais, bon, moi, de toute manière, même ce qu'il dit à Nigo, moi, je pense pas qu'il fera, quoi, parce que c'est un match à Vélodrome. Je pense qu'il mettra pas la réserve à la maison, contre le PSG. Surtout que là, en championnat, ils ont besoin de points. Donc, je pense pas qu'il se permettra de faire, mettre la réserve, sachant qu'en Ligue des Champions, pour moi, je pense que l'OM, c'est un peu mort pour eux. Même si à l'Europa League, toujours, mais je pense pas qu'il mettra la réserve. Même s'il le dit, mais il mettra pas la réserve. Déjà, à la maison, c'est impossible qu'il le mette. Il y a un public qui va venir, qui va se déplacer contre Paris. S'il met la réserve, c'est, voilà, quoi. C'est prendre pour des cons leurs supporters, quoi. Donc, voilà.
Mais déjà, vas-y.
Ouais, je veux dire, on sait jamais, quoi. Non, je dis ça rigolant, mais déjà à Paris, déjà sur leur site ce matin, il avait marqué que le match allait se jouer le 25 novembre. Mais le 25 novembre, il y a Marseille-Milan, donc bon, là, ça peut être possible. Enfin, Milan-Marseille, plutôt. Mais là, déjà, Paris a fait un pas vers Marseille en disant que, en gros, Marseille allait plutôt choisir la date et que eux, enfin, Camboire a dit ça, qu'ils allaient essayer de s'adapter à la date que l'OM allait proposer. Donc déjà, jeudi, la Ligue va statuer, va donner une date, et après, selon, je pense qu'il y aura un arrangement. Mais le problème, c'est que moi, je vois pas le match se jouer avant février, quoi.
Oui.
On remarque quand même, sur ce coup-là, encore les, et ça me permet de lancer une petite pique sur la LFP, leur calendrier qui est plus que les autres années cette année, alors complètement merdique. Ils vont jouer un match au Canada, pour décaler la première journée au 8, alors qu'on a toujours joué le aux alentours du 1er août, ça fait qu'il n'y a absolument aucun trou jusqu'au mois de décembre, et on peut pas remettre des matchs qui peuvent être décalés, ce qui peut arriver pour différentes raisons. Ils l'ont fait à la fois pour des raisons commerciales, donc le match au Canada, qui au passage, je suis pas sûr qu'ils aient rencontré un grand succès grâce à ça, et aussi pour arranger certains clubs qui jouaient des compétitions à l'autre bout du monde, comme Lyon, je crois qu'ils jouaient en Asie, l'espèce de Coupe de la Paix, machin.
Non, c'est en
Espagne. Ouais, d'accord. Enfin bref, c'était super tard. Et la Ligue a bien voulu accepter de déplacer la première journée. Bah, j'espère qu'ils s'en mordent les doigts. En tout cas, c'est une belle connerie, même s'ils s'en mordent pas les doigts.
Et d'ailleurs, tu parles de pique à la LFP. Bah, d'ailleurs, ça me permet aussi, moi qui arrête pas de chier, mais sur la Coupe de la Ligue, là... merci de me soutenir. On s'aperçoit que cette connasse, elle prend des dates, donc un peu inutilement, donc, et c'est pas demain la veille qu'ils vont, apparemment, c'est pas demain la veille qu'ils vont s'apercevoir que cette coupe, elle a aucune légitimité en France, et que, là, ça aurait fait du bien de plus l'avoir dans les pattes pour des cas comme ça, tu vois, pour bloquer des dates, et donc, comme il y a la Coupe de la Ligue, ça nique des dates, et voilà, alors que c'est une coupe qui, à 80%, enfin, toute personne normalement constituée s'en bat un peu les couilles, quoi. Mais bon, je vais pas parler à la place de tout le monde, mais voilà, elle nique des dates, c'est ce que je retiens, moi, c'est dommage.
Puis comme c'est très bien qu'elle sert à rien, personne ne l'aime, bon, sauf ceux qui la gagnent, mais bon, chaque année c'est la même chose. Mais ce qui est une chose qui est sûre, on aura beau en parler chaque année, elle ne sera jamais supprimée. Parce que voilà, Thierry sera à la tête de la ligue, c'est son bébé, et jamais, et voilà. Même si France Télévisions, ils auraient pu, si personne n'avait répondu à l'appel d'offres, peut-être qu'elle aurait pu disparaître, et encore, il y aurait eu sûrement des... Internet, je sais pas, ils seraient démerdés, mais... Mais le truc, c'est comme l'a dit Yac, la seule solution pour que le calendrier soit moins chargé, c'est de commencer plus tôt. Enfin, même plus tôt, quoi.
Il y a un problème aussi.
Ouais. Pourquoi?
La fin du championnat, la fin du championnat, elle a lieu quand, là? Par exemple, quand tu finis le championnat en 2009, elle a eu lieu quand? Fin mai ou début juin?
Cette année, elle a eu lieu le 31 mai.
La Coupe du Monde.
Ouais, voilà. Bah ouais, en plus on est en année de Coupe du Monde. Et c'est...
Il y a moyen.
Il y a aucun inconvénient à démarrer le championnat plus tôt, quoi. Les gens sont en vacances, il fait beau, t'as des belles pelouses, enfin voilà, quoi. Il y a aucun intérêt à déplacer ça pour arranger les amis de Thierry.
Oui, ouais, c'est vrai.
C'est sûr, c'est sûr. Hein.
Amis, je sais pas, mais c'est pour avantager ceux qui vont faire des tournois, ça c'est certain.
Exactement.
La suite, attention, attends, parce que... oulala, ça va?
Oui. Okay. Ouais. Donc voilà, on va... D'ailleurs, Domenech, c'est The Flow qui nous passe un petit article sur Domenech, sur l'équipe. Donc Domenech s'en mêle et a jugé inconcevable qu'on puisse éventuellement jouer, reporter le match au 15 novembre. Il me semble que c'est l'équipe de France qui joue le 15 novembre, si c'est bien
ça.
Mais non, mais il faut le faire juste avant ce match-là, le match de barrage. Et il y a juste Mandanda qui est la doublure de Lloris. Donc bon, à la limite, moi je pense que ce serait une solution, quoi. Parce qu'il n'y a aucun titulaire.
Mathieu, c'est là
qu'il y a peut-être des Africains, par contre, qui jouent des matchs décisifs.
Voilà, ça c'est vrai, ouais.
Donc ouais, c'est un petit peu difficile, quand même.
Le Cameroun, oui. Il y aurait Bia. Ça serait la même galère qu'avec la CAN.
Voilà, c'est vrai. Donc, ouais. J'ai dit la même connerie hier à ma corrigée, donc j'ai oublié, merde.
C'est pas grave. Pour ce petit truc par rapport à l'annulation du match d'hier, je voulais parler d'un petit truc par rapport à OMPSG, pareil. Il y a plusieurs personnes... partie Ligue 1, enfin on va pas, Soccer n'est pas le monopole de la pensée footballistique, mais qui trouve donc certaines personnes non supporters de l'OM, non supporters du PSG, qui juge ce match nul, inintéressant, qui n'intéresse que les supporters des deux équipes et pas les autres. Est-ce que c'est toujours un classique de Ligue 1? Je sais que Hugo, toi, t'es très contre ce classique.
Envoyez, je réponds après.
Oui, je suis très contre. Déjà parce que ces deux équipes-là, durant les 5 dernières années, elles n'étaient pas forcément en tête d'affiche. Ah bon. Puis bon, l'abattage médiatique qu'il y a autour de ce match, je ne comprends pas. Il n'y a pas une grande histoire derrière, à peu près comme tous les matchs de Ligue 1. Franchement, je comprends pas trop. Peut-être
qu'il y a un abattage médiatique. J'ai une question. Quel match, selon toi, mériterait un abattage médiatique comme celui-ci?
Quasiment aucun, puisque quasiment on n'a aucune histoire.
D'accord. Ok. Continue.
Ouais. Après, faut voir ce qu'on appelle classique. Moi, ce que j'appelle classique, au-delà de l'histoire, encore que ça joue, au-delà de, même à la limite du niveau des deux équipes, ce serait que ce soit un match que tout le monde attende. Que tout le monde a envie de voir, pour différentes raisons d'ailleurs. Et moi, je suis absolument convaincu que ce sera le cas de FPSG. Comme tu disais, Roméo, à part les supporters des deux équipes qui en font un culte, je suis absolument convaincu que dans l'ensemble, les autres prennent ça comme un match sympa, comme il y en a peut-être une petite dizaine dans l'année, quoi.
Ouais. Je donnais une idée, une opinion par rapport à ça. C'est l'opinion qu'a Hugo, c'est celle que Time semble, mais c'est pas la mienne. Voilà. Oui, Mathieu.
Ah, il faut que je dise quelque chose là.
Vas-y, comme tu veux.
Non, si quelqu'un doit enchaîner.
Il faut que j'enchaîne. Bah oui. Moi, ce que je veux dire, c'est. Pour ce classico, en fait, bon, moi je me range plutôt de l'avis de ceux qui disent que c'est un truc qui est surfait, parce que bon, il vieillit mal, en fait. Plus années elles passent, plus ça devient un match tout ce qu'il y a de plus banal, en fait, tout simplement parce que les deux équipes, elles ont pas des résultats c'est pas les meilleures équipes de France, hein, si ça se saurait, et donc c'est ce qui fait que ça perd en saveur, en fait, et donc voilà, c'est surtout Marseille PSG, c'est surtout la plus grosse affluence en termes de personnes dans le stade, voilà. de toute la ligue, hein, mais sinon c'est tout. Voilà ce que je pense des OM PSG, PSG OM, les doubles confrontations. Bon, c'est vrai qu'on peut encore constater des rivalités là. Il y a toujours un peu le feu avant, avec les déclarations putassières là des dirigeants, des joueurs, etc. Mais sinon ça a plus lieu d'être, quoi. C'est devenu gentil, quoi. Moi, je dis que c'est devenu gentil depuis environ une dizaine d'années, quoi. Quand je le situerais comme ça, quoi.
Ouais, moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est vrai que c'est surfait maintenant, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de, faut le dire, tout ce qui est les radios, même Canal+ fait des buzz, mais un truc de fou, quoi. C'est par exemple cette année, ils voulaient même sur, je sais plus, Canal+ Sport ou je sais plus laquelle de leur chaîne, ils voulaient diffuser l'entraînement de l'OM. C'est-à-dire qu'ils voulaient envoyer deux commentateurs là-bas qui commentent l'entraînement, plus Paganelli qui devait
D'accord.
Ils ont dit que soi-disant il y avait, techniquement c'est trop compliqué, mais en gros bon, l'OM a refusé, je crois, parce que Deschamps il était pas vraiment chaud pour que l'entraînement soit diffusé en live, quoi. Je veux dire, bon, c'est minimum, hein. Mais moi, c'est eux, ils font beaucoup de buzz là-dessus, quoi. Je veux dire, à la base, même si c'est un match ou plutôt des tensions qui sont préfabriquées par Tapi et Canal+, bon, à part refaire l'histoire, hein, mais je veux dire, il y a un ciment qui fait que il y a quand même un antagonisme entre les deux équipes. Je veux dire, voilà, tout oppose Marseille et Paris, tout oppose le PSG et l'OM. Enfin, je veux dire, au-delà des trucs surfaits, il y a quand même une base qui est vachement, voilà, je sais pas comment m'expliquer, mais bon, je pense que vous avez capté ce que je veux dire. Voilà.
Comme tu l'as dit, Mathieu, on est tous d'accord. Je pense que le choc, ce match. La particularité de ce match vient pas du fait que c'est un choc entre deux grandes équipes, deux équipes qui dominent la Ligue 1. C'est surtout par le fait que c'est les deux équipes les plus supportées de France. C'est un match où il y a une grande tension entre les deux supporters des deux clubs. C'est le Nord contre le Sud. Et c'est de là que vient la rivalité, et on est tous d'accord sur ce point-là. C'est clair que c'est pas un match qui est créé par la rivalité sur le terrain, par le beau jeu, par le fait que les équipes soient les deux meilleurs clubs de Ligue 1. On est d'accord.
Toi, est-ce que ça en fait un classico?
Non,
voilà, c'est ça que je veux dire.
Non, c'est clair.
Ouais, c'est pas que c'est un classico, mais vas-y.
Ouais, de manière, je pense que maintenant, merci Mac, je pense que maintenant les Marseillais, ils préfèrent taper les Lyonnais que les Parisiens, quoi. Donc ce soit, je pense que maintenant Marseille-Lyon devient plus important pour les Marseillais qu'un Marseille-PSG au jour d'aujourd'hui. Donc, j'ai grandi sur Marseille et tout, mes collègues sont pour l'OM. Je pense que pour le jour d'aujourd'hui, la rivalité de l'OM, ça reste Lyon par rapport au palmarès que Lyon est en train d'avoir. Les Marseillais veulent toujours être devant. Et moi, je te dis que pour moi, Marseille préfère taper les Lyon le jour d'aujourd'hui que taper les Parisiens.
Pourquoi ce que tu dis, le mieux c'est taper les deux, quoi, tu vois, mais. sérieux, juste ce que je voulais dire, parce que je voulais dire un truc par contre. C'est vrai que tout ce qui est appeler ça un classique, le classico, de toute façon, dès qu'en France on veut importer un concept étranger, voilà, c'est toujours foireux, quoi. Comme les mecs, le rock à la française, ça ressemble à rien. Enfin, tu vois, dès que tu veux exporter un truc et que tu rajoutes à la française, comme quand tu vois les TF1 qui veut faire des séries comme Les Experts, c'est Les Experts à la française, bon voilà, ça ressemble à rien, quoi. Tu vois, donc, d'importer un concept comme ça, c'est jamais bon. Parce qu'en plus, ce week-end, il y avait River Plate Boca Junior, bon là, c'est vraiment un classique, quoi. Et c'est incomparable à ce match-là, c'est incomparable à Barça-Real, voilà. Oui. C'est un match attendu, mais de là, appeler ça un classique, un classico, non, voilà. C'est juste que... C'est de tuer le match, quoi.
Voilà, pour Mathieu, il y a Habib qui nous a rejoint. Salut, Habib.
Ouais, bonsoir à tous. D'abord, je vais commencer par vous poser la question si vous m'entendez bien.
Oui, on t'entend bien.
Oui,
impeccable. D'accord. Je vais commencer à répondre un peu tout ce qu'a dit Mathieu. Il y a plein de choses qui sont vraies et fausses à la fois. Quand tu expliques qu'on veut surtout être devant Lyon, c'est surtout pour une logique sportive, parce que si tu es devant Lyon, ça veut dire que tu es deuxième ou premier. Donc forcément, c'est un objectif sportif. Après, la victoire sur le PSG, ça reste une victoire de prestige, ça reste un gros match. Après, dire que c'est un match important dans la saison d'un point de vue sportif, non. Mais pour la saison d'un Marseillais, si. Et puis ensuite, tu es en train de comparer Boca River et OM PSG. Moi, je trouve ça un peu nul parce que pour avoir assisté à un Boca River
et avoir
assisté à un Barça Real.
Non, mais justement, pour avoir assisté aussi à un
Barça Real.
Le terme de classique.
Un Barça Real. Et un Boca River, c'est ridicule. D'ailleurs, il y a bien une raison si on appelle d'un côté le classico et de l'autre le super classico. Franchement, c'est dix rangs au-dessus, et je veux même aller plus loin. L'ambiance d'un OM-PSG et d'un PSG-OM, parce que j'ai eu la chance de voir les deux, c'est 10 fois supérieur à Real-Barça. Sur l'ambiance, c'est 10 fois supérieur. Oui.
Habib, je te réponds. Moi,
je sais pas. Est-ce que tu es souvent allé en fait au Camp Nou, au Bernabeu, mais tu te fais souvent chier en fait. Hein.
Attends, je te réponds. Mais... Vous m'entendez là?
Oui, on t'entend. Vas-y,
Habib, tu m'entends aussi?
Bien sûr.
Justement, j'ai dit exactement le contraire. J'ai dit qu'il ne fallait pas importer justement le concept de classico. Genre, c'est incomparable. C'est ce que je disais dès le départ. C'était incomparable de comparer Marseille-Paris à Boca. River ou à Barça Real, c'est ce que j'ai dit justement, que c'est complètement débile.
Si tu veux
que
Canal+
parle d'un classico et que ça avait rien à voir, qu'il fallait pas importer ce concept-là en France, que ça n'avait rien à voir. C'est ce que je disais.
Mais le problème, c'est que si tu veux, il y a dans cette histoire de OMPG, t'as deux médiatisations en fait. Tu as la première médiatisation, pardon, celle qui a vraiment créé le mythe OMPG, comme tu parlais, hein, c'était Tapie, Baize, Canal+, enfin Baize, n'importe quoi. Canal+, c'est un rapport parce qu'ils voulaient un petit peu compenser la rivalité qui a été perdue entre Bordeaux et Marseille fin des années 80. Donc ils ont essayé de créer ça, mais le problème c'est que ça a perduré, même après que Marseille et Paris ne soient plus forcément dans le haut du classement. On a déjà eu des classicos où c'était... c'est le 13e contre le 15e. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que ce qui est ridicule, c'est justement de dire classico. Ce mot déjà est stupide. Voilà. Si en plus tu fais comme certains en disant que c'est le grand classique, Bon bah alors là c'est encore pire, mais franchement OM-PSG ça reste dans tous les derbies européens quoi, dans les 10-15 plus gros matchs européens de l'année en termes d'ambiance, en termes de tout ce que tu veux. Donc si au final si ça reste un très gros match. Je suis désolé, tu me parles de Lyon-OM. Bon après je te mentirais en te disant que le dernier Lyon-OM
non, mais là, c'est pas moi, c'est pas moi qui dis ça, c'était Julien parce que on est tous les deux en accent du sud mais c'est pas moi même.
Pardon.
Ouais, c'est moi qui ça, c'était Julien. Ouais. C'est moi au poulet.
Non mais évidemment moi je vous explique parce que je peux pas non plus parler. Moi je parle pas dans un passé très proche parce que ça fait 3 ans que j'ai pas vu de match de l'OM au stade. Mais donc voilà, franchement, pour avoir peut-être un peu plus vu de matchs que la majorité, ben moi j'ai vu du Boca River, j'ai vu des gros derbies dans un peu plus d'endroits. Moi il y a par exemple un derby. Donc tout le monde va se foutre de la gueule, mais le derby du Maroc contre le Rabat et le Wydad, les deux clubs de Casablanca, je peux vous dire qu'il faut vraiment être dans l'équipe des plus nombreux, hein, pas des vainqueurs, juste des plus nombreux. Non, mais voilà, c'est oui. Tout ça pour dire que évidemment, si on essaie d'en faire une énorme affiche au niveau mondial, non, mais au niveau européen, oui, et au niveau français, incontestablement. Et puis, juste une petite correction, n'oublie pas qu'il y a eu aussi eu Manchester-Liverpool.
Dimanche. C'est vrai. On a un petit problème avec les mobilettes espagnoles. Vas-y, dis Hugo, dis ton petit truc, sinon, vas-y pour conclure.
Voilà, plus général, les Français aiment bien prendre des noms à l'étranger, comme le Big Four, qui est totalement débile. Ce qu'ils appellent Big Four, c'est Lyon, Bordeaux, Marseille, le Paris. Grand 4. Le Grand 4. Les mots derby, les derbies de la Loire, j'avais vu Bordeaux-Nantes, derby de l'Atlantique plutôt.
Ouais, mais là, c'est Canal Plus qui monte du buzz par rapport à tous ces matchs-là.
L'Olympico.
Là, j'ai fait casser ma télé.
On respecte ces appellations. Donc, on trouve peut-être notre identité, peut-être que c'est remis après. Il faut arrêter de copier tout ce qui marche en Europe.
Oui.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Mais le problème, si tu vas en France, c'est qu'on pique les mauvaises idées en Europe. Oui. Franchement, créer du buzz autour de OM-PSG, maintenant, il n'y en a franchement plus besoin. Créer du buzz autour des matchs opposant OM, Bordeaux et Lyon, il n'y en a plus besoin aussi. Parce que maintenant, d'un côté, c'est la rivalité de prestige, de l'autre côté, la rivalité sportive. Donc, il n'y a même pas besoin de monter du buzz là-dessus. C'est donc dommage un peu, ils devraient peut-être se concentrer sur d'autres choses quoi, plutôt que juste dire oh là là on va faire des petits posters géants avec Mandanda qui met une feinte de coup droit et Benzema qui est là en train d'esquiver. Ça va quoi, au bout d'un moment il y a peut-être d'autres choses à faire quoi.
Voilà, donc voilà pour finir sur cette grosse page OM-PSG. On vous a assez saoulé avec ça, je pense on va pouvoir passer au sujet suivant. Vous l'avez remarqué, on a 3 Toulousains, enfin on en a 2, il y en a un troisième qui va arriver. On a 2 Toulousains, on est un peu envahi d'ailleurs. On va pouvoir parler du TFC, qui bat le Toulouse Football Club qui a mal commencé sa saison en pointant dans le... Oh c'est élégant.
Non c'est pas moi, hein. Attends je précise, c'est pas moi là, le mec. Non si, en fait c'est moi, pardon, je ne pensais pas que vous m'aviez entendu, je suis désolé.
J'ai bien entendu en Dolby ce round,
on
y était quoi.
C'était
un peu dommage qu'on était dans ta gorge. On a bien entendu arriver celui-là.
Voilà. Alors, je disais donc que le TFC a mal commencé sa saison en pointant dans le ventre.
Est-ce qu'il est revenu à son vrai niveau ou il est toujours en survêtement?
Bah, il est blessé, c'est toujours blessé.
Ah, donc il est à son niveau.
C'est Fofana qui joue, c'est ça?
Fofana est blessé aussi. Non, blessé aussi. C'est Nounke et Kongré qui sont dans l'axe.
Ah ouais, c'est pas Nounke, putain.
On fait jouer un mec de CFA derrière et des fois c'est Capou qui joue de l'arrière central quand on a d'autres blessés quoi, parce qu'on avait Bondo blessé et Mbengue aussi.
Et Kongré, il est dans l'axe, lui, Kongré.
Et si, et là maintenant il remet Kongré, maintenant que Bondo est revenu, il remet Kongré, mais avant quand il n'y avait pas Bondo, il faisait Kongré à droite, au centre il faisait Nounke Capou, et à gauche il faisait jouer Mbengue.
Ah ouais, c'est vrai, putain.
Ouais, et ben, derrière on a la ramasse, on a causé blessé.
Ah, c'est le chantier derrière.
Ouais, derrière c'est le gros chantier, c'est clair.
Mais bon, oui, on se débrouille plutôt bien, Nounke, Kongré, ça reste quand même solide.
Ouais, Nounke il est pas mal, franchement il me surprend.
Ouais, c'est vrai qu'il franchement de là où il vient, il se débrouille plutôt bien.
C'est clair. On a
pas des fois il fait même s'il fait des erreurs,
des relances de merde, mais bon. Ouais, des petites crises de panique lui, j'ai l'impression, hein. Il panique un peu des fois.
Des fois, ouais, des fois il fait des relances.
T'as la lettre Carcouri,
Mais des fois il fait des bons gestes quand même. Des fois il est puissant et des fois il te fait des trucs, tu comprends pas ce qu'il fait.
Ouais.
Yak.
Ah non. Yak, ah, toi t'es super sympa. Maintenant que je fais autre chose, tu me lances. C'est sympa, merci. Ouais, bon, je voulais dire, et je suis content de ton intervention, Julien. Ouais. Enfin, un Toulousain qui pense la même chose que moi. C'est Toulouse, tu regardes sur l'an passé, ils jouaient surtout sur la solidité de leur bloc. Ils faisaient un pressing terrible. Et puis, ils avaient un Gignac qui était alors indestructible, qui marquait mais des buts incroyables, qui était toujours présent. Et t'avais un enthousiasme dans l'équipe que tu peux pas te reposer là-dessus sur plusieurs saisons. T'es obligé au bout d'un moment de faire Laurent Blanc quand il est arrivé après Ricardo. La deuxième saison de Ricardo, c'était un petit peu comme semble se diriger l'équipe de Toulouse, c'est-à-dire une équipe qui s'essouffle un petit peu, qui a pas un style de jeu vraiment vraiment défini. Et qui se repose beaucoup trop sur son bloc et pas assez sur le mouvement et sur la projection vers l'avant, ça explose pas quoi. Et tu peux pas sur la longueur, tu peux pas perdurer dans les résultats en adoptant cette tactique-là. Donc moi, j'étais absolument convaincu si Casanova ne changeait pas radicalement, mais presque. Sa tactique, son style de jeu, que ça allait s'essouffler.
Mais c'est clair, c'est entièrement raison. Et je pense que l'année dernière, bon, on n'était pas attendu au tournant, donc forcément, on pouvait se permettre de jouer comme ça et de contenir un bloc et de faire la surprise. Maintenant, il y a quand même pas mal d'équipes qui nous attendent au tournant et qui veulent gagner contre le TF parce que l'année dernière, on était quatrième, c'est pas pour rien. Donc forcément, si on coach un jeu comme ça, ça passera pas parce qu'à la maison, les équipes qui viennent à la maison, ils viennent pour défendre. Donc si on défend nous aussi, forcément, il y aura pas de résultat. Il faut qu'on prenne des risques. Et Casanova, pour moi, il a pas encore compris ça. Donc j'espère qu'il va vite le comprendre et qu'il va vite réagir. Et donc voilà. Et aussi pour répondre à Fabien là qui dit que le TFC a vraiment pas fait le jeu contre Lens et que logiquement Toulouse devrait dominer à Lens, ben je suis pas trop d'accord parce que bon, Toulouse sortait quand même d'une grosse défaite à Donetsk 4-0. Bon, déjà mentalement on a quand même un peu peur de faire le jeu, c'est normal. Une équipe qui prend 4-0, ben elle a quand même peur pour enchaîner sur la suite. Et non, je trouve que Toulouse a bien justement eu le comportement idéal pour taper Lens. La preuve, on les a tapés. Donc voilà, je pense que non, ils ont eu le comportement parfait. Donc je suis pas d'accord trop sur ce qu'il dit. Voilà.
Et puis moi je comprends pas, le deuxième but est donné. Je sais pas, il a peut-être pas vu le but, hein, mais ouais. Gignac, c'est un but magnifique ce qu'il met. Il passe trois personnes et il met une frappe magnifique. Donc si c'est ça qu'on appelle donné.
Ouais. putain.
C'est. Non. Oui. Comment il va, Eric Schell là?
Ah, Schell, ouais, il va mieux, je crois.
Ah, non, parce que quand même, c'est la santé quand même.
Ouais. C'est primordial.
Ouais, pas clair. Il a peut-être raté un barreau de l'échelle d'ailleurs. Voilà. Ouais, mais c'est en fait c'était pas un but donné qu'il fallait dire, c'était un but Donetsk, voilà. Bon, c'était pour la petite blague.
Vous avez compris? C'est le concours de la vanne la plus pourrie.
Non, on a fini sur le TFC, non?
Ah oui.
À moins que vous vouliez qu'on parle encore une petite heure là. Comme vous voulez, tous les uns jouent sans chaud. Donc voilà.
T'as aimé, Roméo, t'as aimé le costume de Casanova? J'ai vu que t'avais pas aimé celui de l'entraîneur du Mans l'autre jour. Là, ça allait, ça t'a convenu?
J'avais pas aimé la veste de Paolo Duarte.
Ah, la veste, pardon. La veste.
Monsieur Casanova, je jugerai pas puisque j'ai pas vu.
Voilà, ah bah, tu fais des choses à moitié. Tu veux présenter l'émission, tu fais des choses à moitié, bravo. Bravo, félicitations, on retient.
Mais Yak, on sait tous que t'es pas dans ton état normal là, donc. Hein? Non, c'est pas
genre. La suite donc.
On s'est compris, on va pouvoir passer aux équipes surprises, aux équipes qu'on n'attendait pas, pareil, fête, ok, quelle phrase. Dans ce championnat, ces équipes, je vais bien sûr parler de Monaco, de Auxerre, de Montpellier et de Lorient. Dommage qu'on n'ait pas Jondalar, notre petit Belge, pour parler de Lorient. Mais on a un Monégasque
Et on a un serveur, on va faire vite, on va pas parler une demi-heure de Monaco, mais avant de faire réagir Hugo, oui, tout court.
Ah non, mais non, vas-y, c'est, comme c'est, ils sont prioritaires, fais réagir ces messieurs, alors.
Eh ben, vas-y, Hugo.
Pardon.
De rien.
Oui.
Par rapport à Monaco. Ah oui, excuse-moi, j'ai oublié de poser la question. Monaco, donc, on le rappelle, qui est second du classement à un point de Bordeaux. Est-ce que Monaco peut tenir la distance un peu, parce que j'ai une... Vas-y.
Bah, sur le papier, juste sur le terrain, non. Puisque j'ai vu le dernier match de Monaco, et puis ça tenait qu'à des exploits individuels. Hein. Franchement, il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a quasi rien. C'est soit un exploit de Néné, soit un exploit de Park, ou soit d'Alonso, mais sinon, pas très encourageant.
J'en suis content, les Monégas, quoi.
Non, mais j'ai vu les deux derniers matchs. Contre Boulogne, franchement, c'est assez gentil. Et contre Lens, bah, c'est la même chose. Hein. On jouait en contre à domicile contre Lens. C'est pas ce qu'on pourrait rêver de mieux, tu vois.
Oui. Voilà, apparemment, t'as pas l'air très inspiré sur ton équipe. Donc, en gros, tu...
T'es défaitiste, hein, Hugo.
Oui, défaitiste pessimiste.
Ouais.
Ah. Et d'ailleurs, l'affaire Pinot, c'en est toujours au même point?
Bah, il est blessé. Il a eu des problèmes.
Ça arrange bien Guy?
Bah, pas forcément. Bah, ouais, à 3 sur le mollo.
Mais il a Alonso quand même. Alonso, c'est une bonne alternative quand même à Pinot en fait, parce que bon, c'est
plus une alternative.
Ouais, voilà. Bah c'est même si c'est pas vraiment le même registre, il occupe bien le côté droit là et bon, c'est un peu un joueur bizarre Alonso en fait, parce que pour ceux qui l'ont vu jouer à Bordeaux, je sais pas en fait, t'as l'impression il fait un bon match sur 3 et où il est souvent blessé ou je sais pas quoi, mais jusqu'à présent bah il occupe bien son petit côté droit pour le moment. Après, est-ce qu'il va tenir toute la saison, parce que il a quand même un jeu qui prête à la fatigue. C'est une autre question. Mais sinon, donc pour Monaco, moi aussi en fait je partage ton pessimisme. Pourquoi? Tu me dis hein, si je peux parler de Monaco. Comment s'appelle Roméo? Ouais, c'est bon.
Allez, on va dire oui.
Vas-y. Comment ça on va dire oui? Tu peux dire non parce que je te propose. Non. Vas-y. Ouais, donc je partage ton pessimisme. Pourquoi? Parce qu'en fait bon, on va pas dire les vieilles expressions pourries genre néné, c'est l'arbre qui cache la forêt, machin truc. Mais en fait, on s'aperçoit que à part Néné, qu'est-ce qu'ils ont comme marge de manœuvre? C'est vrai que Park c'est un bon attaquant, tu vois, mais c'est pas vraiment un tueur des surfaces. Donc en fait, c'est un genre de Youri Djorkaeff, quoi, un mec qui
en même temps en Ligue 1, qui a, dis-moi, les tueurs de surface en Ligue 1?
Ouais, jusqu'à présent, bah t'as. Même Gina qui les répond pas présent.
C'est pas forcément avec un tueur de surface que tu vas forcément. Tu vois,
ils ont rien,
il y a 2 ans sans avoir de vrais attaquants.
Ouais, mais sauf qu'eux, ils ont rien. Ah, en fait, tu vas pas pouvoir demander toute la saison à Néné de planter but sur but. Il y a forcément un moment où il va commencer à avoir une baisse de régime. Et d'ailleurs, il y a un révélateur là dans quelques jours. Là, ça va être un Bordeaux-Monaco. Et franchement, je donne pas cher
les chances de Monaco. Pas de problème.
Comment?
Tu iras toujours aussi bien sur les coups francs.
Ouais, attends, parce que j'ai pas très bien entendu, t'es en train de me dire que Néné, donc il sera toujours aussi à droite, c'est ça, sur les coups francs?
Non, ce que je te dis, c'est que sur les coups francs, il n'y a pas de raison que tu me parles, parce que tu m'as dit, un révélateur, c'est Bordeaux. Ou je sais pas ce que tu as dit, mais sur le jeu, oui, évidemment, ça va lui
poser des
problèmes. Mais sur les coups francs, il n'y a pas de raison objective de dire que ça va s'arrêter. Il n'y en a pas plus que de raison objective de dire que ça va s'arrêter ou continuer, tu vois.
Pour se procurer des coups francs, il va falloir qu'il pénètre un peu dans le camp bordelais. Et ça, je pense que ça va être ça va pas se produire souvent dans le match. Et bon, je dis pas qu'il va prendre une humiliation, mais bon, je pense que Bordeaux a une victoire tranquille, un peu comme la saison dernière, un petit 1-0, parce que Monaco, ils manquent de marge de manœuvre. En fait, ça va sûrement être une équipe un peu comme Rennes la saison dernière. Bah d'ailleurs, c'est Lacombe qui était déjà coach, un peu comme Rennes ou Paris, quoi, 6-7e, parce que pas assez nul pour être 12e, mais pas assez fort pour trop rentrer dans le top 4, top 5, quoi. Voilà moi ma vision de Monaco.
Ouais, moi je remarque un truc. J'ai très bien en tête les matchs
à domicile contre Paris, à l'extérieur contre Marseille, ils sont complètement incapables de prendre le jeu à leur compte. C'est des joueurs de contre extraordinaires, vraiment. Surtout Alonso qui me surprend beaucoup, qui est très précis sur les comptes. Il te fait deux passes décisives incroyables, une contre Paris, une contre Marseille, des passes lointaines. J'étais choqué. C'est vraiment des super joueurs de contre, mais moi j'ai pas l'impression qu'ils sont capables de dominer leur sujet dans le jeu, de vraiment mettre en difficulté leur adversaire tout au long d'un match, quoi. Donc à mon avis, sur la longueur, ça coincera au bout d'un moment, quoi.
Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi ça devrait coincer à partir du moment que c'est une équipe de contre?
Mais parce que une équipe de contre, elle marche bien quand elle est dominée, c'est-à-dire contre des équipes qui prennent le jeu à leur compte volontairement. Et ça, t'as pas que des équipes comme ça en Ligue 1. Ils vont jouer contre des équipes un petit peu plus modestes, et là ils auront du mal parce que ils auront plus le ballon que d'habitude et ils auront pas la place de passer leur contre. Donc moi je les vois bien un peu comme Paris l'an dernier, qui, je crois, sur la première partie de saison, ils ont battu tous les gros. Et contre les petites équipes, même s'ils sont bien débrouillés quand même dans l'ensemble, mais c'est le genre d'équipe, contre les petites équipes, ils ont plus de mal, ils sont moins souverains. Et moi je vois Monaco comme ça cette saison.
Comment tu qualifies l'Auxerre, l'équipe d'Auxerre qui avait entraîné Giroud?
Ouais, bon, c'est un peu le même délire, ouais. Ils étaient pas souvent sur le podium, hein, quand tu regardes bien.
Ouais, le doublé Ligue Coupe Championnat. Et ils étaient quasiment en Coupe d'Europe. Je suis pas sûr que, si tu veux, à Monaco, ils pensent tout de suite à être champion. Si ils arrivent à aller en Coupe d'Europe, je pense qu'ils seraient déjà très contents. Donc, à partir du moment.
Mais je dis pas le contraire. Je dis juste que c'est pas une équipe capable de jouer le haut de tableau. Je dis pas que c'est leur prétention ou que c'est leur
objectif. Ah, ça, on sait pas. Si tu m'expliques ça par plein d'autres considérations, je veux bien. Mais si le seul truc que tu dis, c'est qu'en fait, c'est une équipe de contre, donc ils joueront pas au classement, je suis pas trop d'accord. Parce que tu me dis qu'il y a des équipes faibles, certes, mais les grosses branlées de Monaco, c'est Nancy. Mais bon, c'était vraiment un match sans, et je pense que Hugo peut en parler. Sinon, il y a souvent eu des matchs avec des décisions un peu bizarres, des trucs comme ça. Mais moi, je vois pas spécialement pourquoi Monaco devrait craindre les équipes qui font le jeu. Parce que si tu me dis qu'en fait, en France, il y a beaucoup d'équipes qui font qui justement se contentent de défendre, bah, il y en a encore plus, tu sais, qui défendent mal. Donc, il suffit qu'il y ait une petite action, un bon petit coup franc pour Néné. Il n'y a pas de raison pour que ça marche moins bien. C'est ça que je veux dire. Je vois pas pourquoi il y a un défaitisme autour de Monaco qui on a envie de dire que c'est obligé. Pardon ?
Parce que c'est une équipe qui a besoin de beaucoup d'espace. C'est des joueurs de contre, mais vraiment des purs joueurs de contre. Ils ont besoin de boulevard. Et là, ils sont sans doute parmi les meilleurs. Quand tu joues contre des équipes qui, dans l'ensemble, jouent pas très haut, qui tiennent pas beaucoup le ballon, t'as beaucoup moins d'espace que les boulevards que t'as pu voir contre Marseille, par exemple. Voilà. Et je pense que ils perdront des points contre des équipes comme ça. Après, je peux me tromper, hein.
La différence, c'est que, un peu à l'image de Toulouse, à l'image de Nancy, la majorité des équipes qui défendent énormément ces dernières années, maintenant, se décident à attaquer. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer en Ligue 1. Donc, tu as de plus en plus d'équipes qui tentent d'attaquer. Bon, ils savent mal attaquer, mais ils attaquent quand même. Et je pense que ça, pour Monaco, c'est du pain béni. Ah oui. Après, moi, la seule contrainte, ou plutôt la réserve que j'y mets par rapport à Monaco, c'est l'effectif. Parce que là, pour l'instant, on parlait de Néné, qui est, pour faire plaisir à Tuchel, l'arbre qui cache la forêt. Mais la question, c'est pas de savoir s'il va bien continuer à fonctionner, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui se passe s'il se blesse, par exemple. Ça, c'est déjà beaucoup plus plausible de savoir si ce qui va se passer, s'il va se blesser. Parce que les remplaçants offensifs, il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a quand même un élément que personne ne cite et qui me surprend, c'est Gudjohnsen. Pour l'instant, Gudjohnsen, soit il est remplaçant, soit il joue très mal.
Ou soit il est blessé.
Il est blessé surtout.
Soit il est blessé. Et qu'est-ce qui se passe si Gudjonsson se met à bien jouer? Parce que tu étais en train de me parler de ils sont tous bons en contre. Gudjonsson, c'est pas le contre, son fort, hein. Ouais, Johnson, c'est une action statique, de truc, il est capable de te le mettre le bon ballon dans l'espace. Donc, ils ont pas que des joueurs bons en contre, c'est ça que je voulais te dire.
Ouais, c'est vrai qu'il faut voir si Johnson est capable de revenir au niveau qu'il avait, notamment à Chelsea, ce qui est pas dit, parce que vraiment, moi, sur peu que j'ai vu, c'est, sans doute que physiquement il est pas encore au niveau. Faut voir, c'est vrai que ça peut changer avec un bon coup.
Même son niveau de Barcelone, hein, en fait, hein. Parce que, c'était le genre de mec, quand il rentrait en jeu, bon, il donnait satisfaction.
Ouais, bah oui, à Barcelone, là, oui, je peux te le garantir, hein.
Il joue au milieu, à Barcelone, jamais décidé.
Ouais, quasiment, tu veux dire, en fait, milieu droit, comme ça, genre, ailier droit, comme ça.
C'est même 8, même 8, parfois.
Non, c'est pas son poste, ailier droit, pas du tout. Le meilleur poste de Gudjonsson, c'est derrière deux attaquants. C'est ce qu'il avait à Chelsea, son numéro 10. En 8, oui, il est pas mal aussi, évidemment. Mais lui, c'est plus un joueur pour aller jouer sur les côtés. Et de toute façon, on l'a vu, à Monaco, ils ont que des flèches devant. Donc ça sert à rien de le mettre sur un côté, tu vas te priver d'un autre bon joueur. Donc, il faut le mettre dans l'axe. Moi, comme je l'avais expliqué, Coutadeur un peu plus bas et qu'on arrête de le faire jouer en limite en meneur de jeu. Et là, ça peut donner vraiment déjà une bien meilleure solution.
Gudjonsson en soutien de Park, sur le papier, c'est alléchant.
Ouais. Ça plutôt quand j'avais fait une petite simulation de l'effectif, enfin l'effectif entre guillemets rêvé, ça donnait par exemple Néné à gauche, Park devant, comment il s'appelle à droite, le Pino par exemple, ou Alejandro Alonso, Gudjonsson en 10, et puis au milieu tu mets
Coutadeur et
l'autre, c'est non ridicule.
Ou Nkoulou,
Nkoulou.
Ouais, mais moi j'ai une question sur Gudjonsson. Est-ce que vous le voyez vraiment comme un 9-9-9, quoi? Un mec vraiment.
Tu le fais jouer en 10.
Tu le vois pas comme ça.
Derrière un attaquant. Pas en 9.
Y a pas
derrière Park, quoi.
Ben ouais, mais Park,
c'est le comme ça.
Pour moi, le problème, c'est que c'est Dumani, le seul avançant, voilà, je crois, axial. Bah, c'est un peu inquiétant, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça, en fait, le pessimisme de Monaco, il vient du fait que l'étincelle, elle vient souvent de Néné. Et Néné, c'est pas, tu vois, c'est rien que son profil. Tu sais qu'il peut pas faire ça toute la saison, à moins d'un miracle. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain pessimisme. À moins, bien sûr, qu'il recrute, qu'il se renforce, parce que le mercato, c'est aussi fait pour ça, c'est fait pour faire des ajustements. Et donc, à ce moment-là, ouais, s'ils corrigent leur petite défaillance, amener un poids en plus offensif, parce que moi je m'inquiète pas trop pour la défense finalement, mais ouais, un petit poids offensif, ce serait pas de refus pour Monaco quand même.
En plus Néné, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il a jamais mis autant de buts, donc est-ce qu'aussi il est pas en sur-régime, ça c'est quelque chose qu'on pourrait se poser comme question, quoi, parce que c'est pas dit que toute la saison il va tenir la cadence, quoi. Donc c'est pour ça que Monaco, comme on vient de dire, bon, faut voir, quoi.
Bon, est-ce qu'il est sur régime? Je pense pas, puisque bon, il marque la plupart de ses buts sur coup de pied arrêté. Et puis dans le jeu, ben, il est bon, mais il est pas exceptionnel, quoi. Il joue pas au maximum. Il est juste très efficace sur coup de pied arrêté.
Ouais, mais c'est son jeu, ça, en fait, parce qu'il est pas vraiment super vif non plus. C'est pas un style, en fait, je crois. C'est ça le truc. Je pense que c'est ça que tu veux dire. Il est pas très mobile, en fait. C'est surtout sur les phases arrêtées, mais sinon. Sinon voilà, quoi, c'est un centreur, c'est un dribbleur, mais sinon il est pas c'est pas un accélérateur, quoi.
C'est un peu la réincarnation de Monterrubio.
Ouais, mais c'est qui a dit ça déjà? Parce que je crois que tu l'as pompé à quelqu'un, mais je suis pas sûr, en fait. J'ai entendu ça il y a pas longtemps. Sur un média spécialisé. Voilà, ça y est, j'ai un bon souvenir.
on va conclure la page.
Oulala, non, je suis pas de sujet, il a pompé sur RMC.
on va
RMC, putain, la honte.
Ah ouais, Monte Carlo, Monaco, hein, ouais, c'est ça.
Daniel Riolo,
Bref, on va pouvoir passer à la JOCR, parce qu'on a un Auxerrois, Jérémy. Il a pédalé toute la journée pour être avec nous ce soir, donc on va pas quand même le zapper. Salut Rémy.
Salut à tous.
Salut, donc parle-nous un peu d'Auxerre, qui se reprend bien après un début assez poussif. Et donc la JOCR remonte dans la première partie de tableau. À ton avis, tu es optimiste pour la suite?
Certains Auxerrois le sont, mais moi pas trop. Parce que au début, on jouait des équipes de bas de tableau, comme Nice, Saint-Etienne, Grenoble et tout. On a réussi à faire des résultats positifs contre eux. Ça nous a juste lancé. Après, dernièrement, quand on devait jouer à l'extérieur contre Rennes et contre Bordeaux, on s'est dit on va se prendre une tôle, on va prendre 0 points. On a eu le facteur chance avec nous. Contre Rennes, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, Bocanegra il se prend un rouge, Pedretti marque sur coup franc. Ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas marqué sur coup franc direct, donc c'est dire le truc. Après, contre Bordeaux, voilà, Kavenaghi rate son péno, nous on arrive à le mettre. Enfin, on a quand même eu de la chance. Le seul vrai match qu'on ait véritablement gagné, je peux dire, c'est hier, quoi.
D'accord. T'as l'air vachement excité à l'idée de ce début de saison au Serrois. Donc t'es pas.
Ah, on a des supporters qui donnent la chance en leur équipe.
Hein. Non, mais parce qu'à Auxerre c'est un gros dossier quand même. Moi j'ai des questions à poser à Rémi.
Vas-y pour pas nous endormir, vas-y.
What? Oh là là. C'était méchant. Si je suis méchant, je suis une
non.
Mais donc en fait, parce qu'il faut quand même que tu nous éclaires sur des joueurs, parce que Auxerre, la couverture médiatique, c'est pas à toi que j'apprends ça, elle est vraiment pas très élevée, quoi. Mais comment ça se fait donc que des joueurs comme Aurélien Capou, par exemple, qu'on pensait être définitivement perdu pour le foot, il renaît à Auxerre, à ton avis, qu'est-ce qui fait qu'un joueur comme ça, qui suscitait une crise de rire il y a pas encore quelques semaines, quoi, qu'est-ce qui fait qu'il s'épanouit à Auxerre finalement?
Non mais moi je me fous de sa gueule. Hein. Non mais lui enfin, je veux pas le voir dans l'équipe.
Ah, j'avais une chance sur deux, merde.
Non mais hier il a eu de la chance, le gars Fernandez l'a fait rentrer sur le deuxième but qu'on est, c'est lui qui récupère la balle. Et sur le dernier, c'est lui qui fait la passe, mais sinon, il n'a rien fait du tout de la saison, quoi.
Ah, de la saison, carrément, ouais. Ouais, c'est dur. Mais sinon, Auxerre, non, mais attends, parce qu'il faut quand même te poser la
question. Enchaîne derrière,
attends. Ouais, mais on cherche, on pioche. Attends, on racle les fonds de tiroir, non, je rigole. Non, mais Auxerre, faut quand même te poser la question. Là, ils sont dans la première partie de tableau, hein, ça c'est sûr et certain. Est-ce pour tenir la saison à ce rythme-là, moi je dirais plutôt non, parce que c'est quand même léger. Il suffit qu'il y en ait un. C'est pareil, c'est toutes les questions de marge de manœuvre qui est un petit coup de mou, comme on dit, et le banc il est pas à la hauteur. Donc est-ce que tu penses que ils ont vocation à rester là ou ça va s'écrouler vers les 13, 14, 15e place?
Non, mais moi c'est ce que je fais que répéter, quoi. Je pense pareil que toi. Enfin, ça fait à peu près 3 ans qu'on a quand même le même effectif. Si les gars ils sont pas foutus de gagner des matchs au bout de 3 ans qu'ils se connaissent, ce serait quand même assez catastrophique, quoi. Donc voilà, là on arrive à gagner, mais on n'a pas non plus les moyens comme des grosses équipes, à mon avis. Enfin, Fernandez, il nous vise le top 10, ce sera déjà une bonne chose, quoi.
Ah ouais, effectivement, ouais. C'est le top 10 avec les défenses. Moi j'ai vu là, il y a un mec là qui s'appelle en arrière gauche. Des fois vous mettez Doudka, c'est ça, non?
Ouais.
C'est un peu inquiétant d'avoir un mec comme ça.
En fait, c'est juste parce qu'il a bien fait contre Bordeaux, lui. Fernandez, il met les gars. Il titularise un gars. S'il fait un bon match, il le remet au match suivant et puis l'autre il le sort, même s'il a fait une bonne saison. C'est un peu ça, quoi.
Et Chafny?
Putain,
vous l'aimez pas ou quoi?
C'est qui déjà? Il joue dans mon club?
Attends.
Non, c'est... Lui aussi, non mais Chafny,
c'est ça.
Non, pour le cas Chafny, il a fait un début de saison assez nul, quoi. Sur les derniers matchs, il s'est repris. Dernier match hier contre Lille, il retombe un peu dans ses travers, quoi.
Ouais. Donc Rémi. T'avais l'air très excité de nous parler de Serre, voilà. Je pense que. Comment?
Il est contagieux, Rémi, là. Faut le jeter.
Il va nous contaminer.
Il a la grippe, pas. Voilà. Ça fait déjà 2 cas, il en faut plus qu'un 3e pour arrêter l'émission.
Ah ouais, putain.
Ah, il nous manque juste un Lorienté abattu après la défaite de ce week-end, et c'est bon.
Par nous, c'est pas grave, il va nous soigner, là.
On l'a fait, ça, voilà. La complainte du Lorienté, on l'a fait samedi soir.
Oui, c'est vrai. On l'a fait samedi soir.
Pique à Bible, putain.
D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de Jean Dallard depuis.
Par contre, juste pour répondre à une citation d'Anne, qui a dit que Auxerre a quand même fini 2 fois 8e ces dernières saisons. L'année dernière,
ben on a, c'est pas de Dan, c'est de Fab 07, c'était une réaction.
Une saison en boulet de canon aussi. Il y a deux ans, c'était catastrophique. Et, il y a trois ans, c'est parce qu'on avait, on avait l'effectif, quoi. On avait quand même Stania, Cherou, Kaboul, Akalé et tout. Donc, si avec ça on n'arrivait pas à être dans le top 10, il y avait un problème.
Ah ouais, effectivement.
Voilà, merci, merci Rémi. Merci Rémi, merci. On va...
Cet élan d'enthousiasme.
Bah, là, tu nous as...
Ta chaleur nous va droit au cœur.
Non mais je serais plus enthousiaste si on est à la même position en fin de saison.
Voilà, ah bah merci, on
m'a rendu compte. Mais là, c'est juste parce que je suis pas très optimiste.
Donc, t'allais dire dans deux ans.
En fait, le mythe de la Ligue 1, donc c'est les fans du petit club, ils ont toujours peur. Même quand ils font une bonne saison, ils disent, quand ils commencent, ils disent, oh putain, on est dans la merde. Les moyens, ils disent, de toute façon, nous, on est là que pour le beau jeu. Et restent en Ligue 1. Ceux qui vont en Europe, comme Toulouse, ils sont toujours là à dire qu'ils sont sous-médiatisés, qu'ils sont sous-cotés. Et les quatre gros là, enfin les quatre gros Paris sont pas dans les gros, les trois, ils sont en train de nous expliquer qu'ils peuvent niquer tout le monde. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça marche en Ligue 1. Je comprends pas pourquoi, et Hugo, et là, Rémi, vous êtes en train de, limite, de chialer parce que votre équipe est en train de bien jouer en ce moment et qui gagne des matchs.
Non mais
t'as vous pas être à la matchs, place du Grenoble. On s'en fout, bien joué. Non, mais bien joué, je veux dire, bien joué ou gagner des matchs. C'est plutôt Monaco qui joue assez bien. Mais, vous voulez être à la place du Grenoble?
Non, parce qu'en fait, ils se projettent sur le long terme.
Apparemment, non.
C'est pas question de se projeter sur le long terme. Mais, pour reprendre, bon, on va faire une soirée spéciale, l'expression à la con, les points pris ne sont plus à prendre. Il faut peut-être se réjouir de ça.
On va l'enregistrer, je crois.
Tout cool.
Ouais, on va faire une émission spéciale sur ça, tellement il y en a des à poison des expressions à la
con. Ouais, c'est bon que nous, on dit pas que c'est des expressions à la con avant d'en répéter une juste après.
Bah ouais, mais c'est pour le show, tu vois. Je fais exprès.
On pourrait même inviter quelques guests. Quelques habitués. On peut pas le citer. Donc voilà, on va pouvoir passer à un autre sujet parce que t'es gentil hein Rémi, je t'aime bien, mais Auxerre ça nous a un peu endormi et ça a endormi les auditeurs, donc on va changer, on va passer. Mais non, mais c'est vrai, moi j'aime bien Auxerre, j'ai un contre. C'est un peu la France paysanne, ça. C'est un club de prolétaires, mais ça intéresse pas grand monde. Voilà, on va pouvoir changer de sujet, on va pouvoir passer à des équipes pas plus folichonnes, mais les équipes qui ont du mal en ce début de saison. Grenoble, tu viens d'en parler, Habib, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est la merde.
Le strike.
D'ailleurs, le strike. On n'a plus de nouvelles de Narpi, ça devient assez...
Inquiétant,
comme tu l'as dit. Aussi, il y a aussi Lens.
Allez, mais Lens.
Oui, il y a Lens aussi. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. L'admiratrice venait de me whizzer sur MSN, donc il y a aussi Lens. Et Le Mans Union Club 72, on sait que tu portes Le Mans dans ton cœur. Tuco, tu as même fait une pétition pour sa suppression du football français.
Ouais, c'est ironique, hein, mais c'est juste que c'est agaçant. J'aimerais bien en fait que ne plus avoir certains messages sous les yeux qui sont en Ligue 2, en fait. Tu vois ce que je veux dire, pour plus lire les messages, quoi. Et certaines personnes, quoi. Comme ça, là, ils descendent en Ligue 2. Ils sont en bas. Et moi, je lis pas ce qui est en bas. Je lis ce qui est en haut. S'ils descendent, je les lirai plus.
Je comprends. Donc, tu as quelques problèmes avec les membres dont le pseudo se termine par 72, c'est ça?
Je sais pas si c'est moi qui ai un problème ou si c'est eux qui sont pas trop lettrés, quoi,
enfin, il y a quelques exceptions, comme Virachu de Le Mans. On est méchants, ouais.
Ah, j'adore.
Voilà, on est un peu méchants avec les morceaux. Donc, par rapport au Mans, rien d'autre, donc.
Comment ça, rien d'autre, on a rien dit. On a juste dit quoi?
Bon, on a fait un grand cours sur Le Mans, je pense.
Bon, attends, je vais parler sur Le Mans parce que je vais recadrer le débat, si vous voulez bien. enfin le débat c'est pas recadré, c'est ce que je pense sur le club en ce moment quoi. Ils ont du mal, bon ça va être un peu dépensif, mais bon voilà, c'est la soirée. Mais je veux dire, chaque année ils perdent quelques joueurs.
Et là, ils
vont partir par et Gervinho.
Ils vont venir à Gand, le club d'Europe.
J'ai pas compris.
Ça veut rien dire, c'est normal, j'ai aligné tous les poncifs d'un coup sur coup. Ça donne
ah
ça.
D'accord, ok. Ouais, donc
C'est vrai que t'as raison. Sur les 3-4 dernières années, le nombre de joueurs qu'ils avaient, qu'ils ont vendu, je sais pas pour combien ils ont vendu en tout, mais ça, je pense que ça dépasse les 35-40 millions. Et à mon avis, ils ont pas dépensé même pas le quart de ce qu'ils ont vendu. Donc au bout d'un moment, il faut pas s'étonner de les voir en bas, quoi.
Ouais, voilà, c'est normal qu'ils aient un trou sur une saison ou deux, mais qu'ensuite ça repartira, quoi. Parce que, aussi ce qu'il faudra gérer qui est compliqué,
bah, ça repartira à partir de quoi? Ils ont jamais rien, ils ont jamais été quelque chose.
Mais attends, ça fait combien d'années qu'ils sont en Ligue 1 et ils ont sorti des joueurs et chaque année ils sont là?
Ça repartira, voilà, ça repartira.
Ils ont sorti un paquet de joueurs, quoi. Ils en ont sorti,
Ils sont à leur niveau, là.
Mais oui, bah oui.
Repartir. Parce que quand tu dis repartir, on a l'impression que là, ils sont en train de s'économiser, là. Là, ils sont en train de préparer l'attaque. Ils ont jamais rien fait.
Mais c'est pas ça que je veux dire. Là, ils sont vraiment mal au classement, mais ils peuvent remonter, ce que je veux te dire, c'est ça. Mais même s'ils descendent une année en Ligue 2, ça va pas être un drame pour eux, c'est ça que je veux te dire aussi. C'est le manque, quoi, je veux dire, voilà. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que Duarte...
Dire qu'ils vont repartir, ça veut pas dire grand chose, parce que qu'ils soient 17e ou 12e, ça change rien, au final.
Mais pour ces clubs-là, bien sûr que ça change, d'une place à une autre. Financier, c'est différent, et bien sûr que c'est différent pour eux.
En fait,
ça compte.
C'est équidam, quoi. En fait, c'est.
Ben oui, c'est équidam, mais attends, mais si on fait une ligue à 20 clubs,
c'est pas le changement entre la 12e et la 14e place qui sauve un club de la banqueroute, hein.
Mais j'ai pas dit ça non plus. Toi, tu exagères tout à chaque fois.
Mais non,
c'est
mais
pas ça que je veux dire. Mais entre finir 17e et finir 12e,
il a bien expliqué qu'ils ont vendu tous leurs joueurs, et c'est justement ça qui sauve le club. Financièrement, mais après, quand tu m'expliques que ça change financièrement pour un club d'être 12e ou 17e, moi j'aimerais que tu m'expliques concrètement ce que ça change.
Ben concrètement, je sais pas, parce que j'ai pas sous les yeux, et je connais pas comment est réparti l'argent quand tu finis, mais je te dis qu'il y a une différence financière. La Ligue, elle a fait
c'est une routille au final.
Que tu finisses 17e ou que tu finisses 12e, il y a une différence.
Ouais, mais c'est une routille, la différence.
Pour un club comme Le Mans.
Il y a comme une différence sportive, tout simplement. C'est une différence
pas
sportive.
Toi non plus,
parce que quand tu termines 17e, tu vois plein de joueurs se casser. Et si par exemple tu termines 11e ou 12e, t'as moins de chances de voir plein de joueurs se casser. Mais en fait, voilà, moi, mon avis sur le MUC 72, donc, parce que j'ai quand même un avis sur ce club, même si, voilà, je rigole des fois avec eux. Oh. Mais c'est qu'en fait, ils ont une politique, en fait, à super court terme. C'est-à-dire qu'ils ont pris le pari de recruter avec réussite, hein, ces dernières années, plein de joueurs issus des deuxièmes divisions finlandaises, guinéennes. Enfin bon, ça venait des quatre coins du monde, et un jour ou l'autre cette stratégie là c'est la loterie, quoi. Il suffit que les joueurs ils s'avèrent un peu moins bons que prévu, et finalement comme t'as pas la même marge de manœuvre, donc que des clubs qui vont chercher des Lucho González ou des Lisandro López ou même des Johan Gourcuff, ils peuvent pas se permettre de faire ça, et donc ils sont obligés de payer les pots cassés de parce qu'ils sont dans l'inconnu, en fait. Ils recrutent que des inconnus, donc finalement c'est un jour ou l'autre, et c'est peut-être que l'année est arrivée pour eux, ça va plus marcher, et donc direction.
Ça fait péter la boîte à poncif, hein. Ils sont dans l'inconnu.
Ah mais ouais, c'est ça. Tous les joueurs qu'ils ont vendus ces dernières années, t'as des Romaric, des Graffité, des Cessignon, des Gervinho. Quand tu vends tout ça, tu peux te dire quand même, parce que ça fait quelque temps que ça dure, tu peux te dire qu'ils peuvent recruter des joueurs peut-être, allez, pas un niveau au-dessus, mais presque.
C'est pas attractif, le vent. C'est pas attractif, c'est pour ça.
Et voilà.
Tu vas attirer qui?
Je sais pas, mais quand tu vends des joueurs pour cher et que tu prends des joueurs qui sont plus que des paris, au bout d'un moment, tu te casses les dents, quoi. À moins d'avoir une chance extraordinaire pendant super longtemps, t'es obligé de te casser les dents au bout d'un moment, quoi.
Ouais, mais qui en France ne fait pas ça, justement? Qui en France fait différemment, à part les 3-4 très gros, les 3-4 là qui ont de la thune? Tous les autres, ils sont obligés de prendre des paris.
Ouais, mais sauf que ils font plus souvent du recrutement franco-français en fait. Et mais Le Mans, c'est vraiment, quand je te dis l'inco, c'est-à-dire qu'ils recrutent des quatre coins du monde, vraiment des trucs que personne connaît au moment où ils signent au club en fait. Stromstad, Elstad, là, les trucs comme ça, vraiment personne personne connaît quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais évidemment, quelqu'un peut me citer le meilleur classement du Mans depuis qu'ils sont en Ligue 1? Ça doit pas voler bien haut finalement.
Hein. Je crois que c'est 9e par là.
Ouais. 9e, bah voilà, mais en fait ils ont ils ont du mérite quand même d'avoir terminé 9e. Mais faut vraiment qu'ils, pour être attractif en fait, il aurait vraiment fallu qu'ils franchissent un palier, c'est-à-dire être 6e comme ça. Mais là, Le Mans, qui va venir au Mans quand même, enfin faut vraiment voilà, faut vraiment s'accrocher pour signer dans ce club quoi, c'est un peu sec quoi.
Oui.
Enfin, Abby, pour répondre à ta question, enfin, je dis pas qu'il faut prendre des joueurs des valeurs sûres, mais quand tu regardes des équipes comme Nice, comme Nancy, comme Lorient, comme Lille, ils prêtent pas des joueurs de la 4e division de l'Europe de l'Est. Ils prêtent
non,
des
non,
joueurs
non,
quand même.
Non, non, à Nancy et à Lorient, ils ont juste recruté en Ligue 2.
Bah, Lorient, quand ils prennent Bayrua, quand ils prennent l'avancement
de Capirou,
qui joue à Strasbourg, qui était bon, quand ils prennent, enfin voilà, c'est pas non plus
ouais, quand ils prennent Koscielny, quand ils prennent...
Il y a moins de chances d'échec, quoi.
Le mec bizarre, là, qui vient de Ligue 2.
Allo et Foulou.
Allo et Foulou, ouais, c'est ça.
Bah merci. Voilà.
Fab. Donc tu vois, non mais tout ça, moi justement que tu me sortes ça, tu vois, pour moi c'est justement la parfaite justification, ce que j'expliquais. Pourquoi on est en train d'expliquer que ce que fait Le Mans c'est super, alors que t'as une dizaine de clubs français qui font ça. Ils font quasiment tout ça d'ailleurs. Quand franchement, Auxerre va récupérer Yélène, tout le monde s'est foutu de leur gueule.
Mais non, pas foutu de leur gueule.
Dis ça, quand tu as Lille qui va prendre Bastos, tout le monde rigole.
Il joue à l'équipe de Pologne.
Qui?
C'est un international polonais, Yélène, donc personne s'est foutu de
leur gueule. Ah oui, parce qu'en France, c'est vrai que, avec le nombrilisme qu'il y a, quand Auxerre prend un international polonais, tout le monde dit, oh, c'est super, ça c'est une superbe recrue.
Mais il a signé après la Coupe du Monde 2006, donc il avait quand même un certain vécu. Personne, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui s'est foutu de leur gueule, à moins que ça soit vraiment.
Ouais, mais en fait, tu dis ça, quand Sochaux récupère Zverkos, alors qu'on l'avait tous vu à l'Euro, on était tous en train de dire au début, ouais, bof, Zverkos, bof. Bon, c'est vers
parce qu'il n'y a pas beaucoup de connaisseurs, tout simplement. Ils connaissent pas.
C'est pour ça que je te dis que c'est pas le seul. Le Mans n'est pas le seul club qui fonctionne comme ça. Il y en a des milliers. Pourquoi on est en train d'en faire tout un panaquès alors que finalement, quand on voit que sur la durée, Lorient fait mieux, Auxerre fait mieux. En plus, on est en train de me parler de vente de joueurs. Alors si Auxerre c'est pas les champions du monde, je garde l'argent une fois que je l'ai encaissé. Bah, je sais pas, je trouve que c'est trop facile. Ce que t'as dit là, c'est vraiment, c'est pas que c'est faux justement, mais malheureusement, ce que tu viens de dire, on peut l'appliquer pour, allez, 10 clubs, 12 clubs de Ligue 1.
Non, moi je pense pas, je suis pas d'accord.
Non, en plus je suis pas d'accord.
Alors, donnez-moi les clubs français qui ne font pas comme Le Mans.
Mais d'accord, ils font ça. D'accord.
Regarde, j'ai l'effectif de Valenciennes sous les yeux. J'ai pris un club au hasard. Tu prends Pierroni, tu prends Odell. Tu prends Samassa, tu prends
attends. Tu es en train d'expliquer que toi, en me disant Pironi, Samassa, tu es en train de me dire que c'est la folie. Quand on est là, tout le monde se fout de
ça. Niveau d'incertitude.
On a tous le souvenir de la quiche qui a joué dans 3 clubs français, qui s'est ramassé. Samassa, c'est même devenu un synonyme du mec qui nique pas. Tellement le mec, sa réputation, elle est en train de franchir les frontières. Et maintenant, tu es en train de m'expliquer que parce qu'ils prennent Odell, Samassa et Pironi, c'est un contre-exemple. Mais tu rigoles.
Évidemment, moi je suis désolé quand je vois ces joueurs-là. C'est moins risqué de prendre des joueurs comme ça que des Stromstad ou des je sais pas quoi. Je suis désolé.
Donc en gros, tu es en train de m'expliquer que c'est plus risqué de prendre des mecs qui cartonnent ailleurs que des mecs qui sont minables chez toi.
Bah, mais si tu cartonnes dans un football qui va à 2 à l'heure et
saison,
le niveau, même moi je pourrais jouer là-bas, désolé, moi j'appelle ça un pari risqué.
Ah bon.
Bah pareil, moi je pense pareil aussi, parce que il y a vraiment une exception au Mansell, c'est
donc, je répète la phrase, parce que je suis pas sûr que vous ayez vraiment saisi le sens de ce que je veux dire. Prendre un mec qui cartonne ailleurs, c'est plus risqué que prendre un mec qui est nul en Ligue 1.
Qui est moyen en Ligue 1, oui.
Non, il n'y a pas de ironie.
Et ça, ça est pas moyen. On a parlé des problèmes d'adaptation.
C'est vrai que ça, il arrive
de l'angle. C'est pas le même. T'as pas les mêmes contacts. C'est pas la même intensité. Je suis désolé. Il y a trop d'incertitudes. Même si ça
cartonne ailleurs. Encore une fois, tu comprends pas que je te dis pas que c'est risqué de prendre des joueurs ailleurs. Mais en quoi c'est moins risqué de prendre Samassa? Si tu veux, d'un côté, tu as Samassa, tu es sûr qu'il va être nul. Elstad, tu sais pas s'il va être nul. Samassa, t'es sûr qu'il va être nul. Pironi, tu sais qu'il va être nul. Je veux dire, Samassa... Ouais, bah,
excuse-moi, mais Samassa, pour l'instant, il est pas dégueulasse, quoi. Il est pas...
Ah non, mais pas dégueulasse. S'il arrive à Bordeaux, tu te suicides.
Ah, je sais pas, mais c'est pas vraiment
disparate. Non, mais vraiment, faut arrêter la mauvaise foi. Là, on est pas en train... Je sais pas, c'est pas comme si tu me dis Lorient. Lorient, on parle de... Lorient, moi qui... Le club que j'aime bien, par exemple, quand ils prennent Monterubio, là, c'est pas spécialement risqué. Parce que Monterubio, on sait qu'il a fait de bonnes choses en Ligue 1. Pironi, il a jamais été bon en Ligue 1. Samassa, il a jamais été bon en Ligue 1. Samassa, je crois que sa meilleure saison, c'est qu'il a marqué 4 buts dans la saison.
Si Pironi, il a déjà torché le cul d'Auxerre, hein, une saison, il aura marqué les buts,
ouais,
là,
et les joueurs qui ont été bons.
Ouais, il y a 10 ans. Moins. T'as une bonne saison, non, mais une bonne saison, c'est pas suffisant. C'est ce que par rapport à ce que j'expliquais à Fabien, enfin, GG, sur le concept de potentiel, c'est pareil. C'est pas parce que tu es bon une saison que tu es bon.
Ah non, mais quand, tu prêches à convaincre, parce que j'aime pas Pironi, moi, mais, de toute façon, voilà, mais. Ben voilà, mais on est en train de dire, ouais, je comprends ce que tu veux dire, tu es en train, mais en fait, tu es en train de dire.
Pas,
en
quoi, tu me dis le recrutement de Le Mans.
Bon, ok, vas-y,
Alors, je vais voir. Arriver Le Mans, Andrade, je sais même pas qui c'est, lui. Et Kane, Ovono. Alors, Ovono, tu vois, si on fait la même mauvaise foi que vous, je vous dis, Ovono, il est super connu. C'est le gardien du Gabon. Super connu. Est-ce que tu te rends compte à quel point ça peut devenir ridicule de dire que le mec, il est connu parce qu'il est gardien du Gabon? C'est un international aussi, hein. Comme Yellen, c'est un international. Il marque pas, il fait rien, mais c'est un international quand même. Mais tu vois, c'est ça. Dans n'importe quel club, je vous donne le lien de la LFP, vous le regardez, c'est partout pareil. Là, je viens de relire un vieux message d'Hugo qui expliquait quand Monaco prend Park. Il y avait Arnaud qui a tout de suite commencé à rigoler en disant « Ouais, c'est un Chinois, c'est un Vietnamien. Bah, » C'est pas parce que c'est Coréen qu'il a joué en Corée qu'il est mauvais.
Je me rappelle de l'émission.
Mais tu regardes Monaco, quand ils prennent Park, ils prennent que des joueurs comme ça. Et tu regardes, ils sont quasiment tous plantés.
Ben ouais.
Non, mais le problème, c'est que Monaco, ils en prennent 30 chaque saison. Donc, au final, ils se plantent.
Ouais, enfin, c'est pas très criant comme exemple. Mais tu prends Park, c'est un peu l'exception qui confirme là. L'année dernière, ils ont pris l'Américain, là. Comment il s'appelle?
Je te donne les joueurs. Tu arrives à Monaco, puis Grenier, c'est quand même une réussite. Néné, ouais, qui revient, c'est quand même une réussite. Coutadeur, c'est quand même une réussite. Eduardo Costa, c'est pas trop mauvais. Good Johnson, c'est la grosse interrogation. Sinon, il y a Jimmy Traoré. Là, je peux même pas t'en parler, honnêtement. Eduardo, Sao Paulo et Martin. Retour de prêt de Nîmes, Mallory Martin. Mais voilà, alors que moi, si tu veux, tu me parles des joueurs bizarres, tu vas dans n'importe quel... Mais je te dis, va dans n'importe quel... D'ailleurs, je vous ai passé le lien, vous allez dans n'importe quel club. Au final... Les trois quarts des joueurs, soit tu les connais pas, soit tu les connais vite fait parce que t'as joué à Football Manager.
Mais oui, mais ça, on est d'accord avec toi, c'est pas ça le problème. Mais on te disait que, on avait l'impression que, bon, cette année c'est pas le cas, mais que Le Mans travaillait bien, puisqu'il recrutait des quasi inconnus qui après devenaient des bons joueurs et qui revendaient cher. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait dire.
Non, mais c'est le cas un peu partout en France.
Des mecs. Mais eux, c'est pas tout même particulier. Tu sors une équipe. Sur les 2-3 dernières années, tu sors une équipe type qui tient la route. Tu prends Pelé, Baza, tu prends Romaric, tu prends Cessegnon, tu prends Bangoura, je sais pas, tu prends même des joueurs de merde, genre.
Calvé.
Cousin, il est parti, lui, c'était un gars du Mans, ils l'ont sorti. Drogba, il a fait une saison là-bas. Enfin, je veux dire, eux, c'est particulier.
Ils ont tout pas sorti des joueurs. Le problème, c'est que moi, ce que je te dis, c'est que tu veux qu'on refasse l'équipe des 3 dernières années de Nice, de Nancy, de Monaco.
Bah, elle sera meilleure celle du monde, c'est certain.
Mais tu vois, c'est ce que je te dis, c'est qu'au final, on voit que si tu fais ça pour plein de clubs, bah, ça donne bien aussi.
Bah ouais, mais ça va.
Ah bah oui, bah, donc c'est pour ça que je veux dire, pourquoi on est en train de dire que Le Mans, c'est une exception si, au final, en France, ils fonctionnent tous comme ça, parce qu'ils sont obligés.
Mais oui, mais moi je critique pas le fait qu'ils aient vendu, c'est tout à fait normal. Même pour un club plus UP, genre quand Bordeaux, si Bordeaux avait vendu Chamac, si Marseille avait vendu, je sais pas, Chéroux, Mandanda, ça, on est d'accord avec ça. Le système, pour que les clubs français s'en sortent, il faut qu'ils vendent leurs meilleurs joueurs chaque année. Ça, on est d'accord avec ça. Mais juste moi, ce que je voulais dire, c'est que Le Mans, ces dernières années, ont mieux travaillé que les autres, et que cette année, si ça marche un peu moins, c'est peut-être que ça a moins bien travaillé, en partie peut-être parce que Jean Dupeux l'année dernière, le conseiller du président qui s'occupe du recrutement, il est allé sur le banc, et que peut-être qu'il y a un trou, dans la génération qui arrive, il y a un trou dans, je te dis ça pour par exemple la formation, où ça a plus mal recruté, et c'est pour ça qu'ils ont du mal cette année. Mais du fait de dire ils ont vendu, c'est parce qu'ils ont vendu qu'ils sont dans la merde là, non, c'est pas ça que je voulais dire.
Non mais justement là, on s'entend absolument pas sur ce que je dis. Moi je te dis pas qu'ils ont mal travaillé ou que l'excuse c'est parce qu'ils ont moins vendu. Je te dis que tu me dis qu'ils travaillent mieux. Non, ils travaillent pas mieux. Ils travaillent finalement comme les autres. Il y a très peu de clubs, à part les mecs qui ont un budget bien au-dessus, qui travaillent différemment et moins bien. Mais sinon tous les autres travaillent de la même façon. Parce que tu me parles de Le Mans. Si on fait en valeur des transferts, il faudra m'expliquer comment tu calcules pour me trouver que Le Mans fait plus de ventes que le LOSC, que Lille, que et tu vois, tu peux continuer comme ça longtemps. Donc c'est pour ça que je te dis, c'est pas les seuls. Ils sont quasiment tous comme ça.
Moi, je parle pas d'argent.
Marvolo, est-ce que je peux te répondre? Parce qu'en fait, ça fait 30 minutes que je vous entends, et j'aimerais bien te répondre sur un point. Quand tu dis qu'il y a que, par exemple, les trois grands clubs en France qui fonctionnent de la sorte, c'est-à-dire qui arrivent à garder leurs joueurs.
Mais pas qui arrivent à garder leurs joueurs, qui prennent des joueurs qui sont déjà connus, qui ont un statut, un vrai statut, et pas faire à recruter Grishin qui est international suisse.
Mais c'était pas ça le truc, parce que tu disais justement que Le Mans, tu vois, vendait tous ses meilleurs joueurs. Et après, tu disais qu'en France, il y avait que...
Non, tu as pas compris. Je t'ai pas dit qu'il le vendait, parce que d'ailleurs, quand je dis depuis tout à l'heure, je dis Le Mans travaille au final comme les autres. Pas mieux que les autres, comme les autres. Alors donc, quand je dis comme les autres, ne me dis pas que je dis que eux réussissent à faire un truc que les autres ne font pas. Je dis bien comme les autres. Donc tout le monde, à des échelles différentes, sont obligés de vendre leur meilleur joueur.
Mais ça, on est d'accord avec ça. On est tous d'accord avec ça.
À une échelle totalement différente. Quand tu regardes sur Toulouse, tu regardes le cas Gignac, et ben voilà, pour une fois, Toulouse, et ben ils sont pas laissés faire, ils ont gardé leurs joueurs.
Si tu es en train de me sortir, tu te rends compte que ton contre-argument, c'est un club qui a fait une saison le Forcing.
Pas du tout. Je peux te sortir Lille, qui garde Mavouba, qui garde Kabay.
D'accord, non, mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Mais non, toi, tu vois les choses de façon trop facile en me sortant 3-4 contre-exemples. Mais non, mais c'est trop facile ça, de me dire, oui, trou de balle sur herbe a gardé Jean-Marc Trout. En 83, Alou et Folou, il est resté au club d'Yaoundé. Moi, je te dis que Toulouse, quand il y a un gros club qui tape à la porte, ils vendent.
Mais n'importe Toulouse. Quoi. Alors pourquoi ils n'ont pas vendu à Lyon Gignac, alors que Lyon mettait un prix énorme, quoi?
Ah, pour une fois, ils ont résisté. Il n'y a pas de quoi.
Pour une fois, ça montre bien qu'il y a un changement. Et tu vois pourquoi Lille a pas vendu Rami à l'OM 11 millions d'euros? Pourquoi? Parce qu'ils ont résisté. Pourquoi Rod Fanny s'est pas barré?
Rien à voir. Ils ont pas résisté parce que financièrement, ils ont résisté parce que c'était devenu une prise d'armes médiatique. Ne confonds pas tout. Parce que là, c'est trop facile.
Mais là, tu me sors des considérations totalement subjectives.
Ça veut rien dire. Non. Tu peux pas me dire que c'est des considérations différentes. À partir du moment que, si on part du principe et du postulat que les clubs vendent pour équilibrer leurs comptes, quand Lille refuse l'offre énorme de Marseille, c'est parce que dans la même foulée, ils ont une autre encore plus conséquente de la part de Lyon pour acheter Bastos. Donc du coup, d'un certain équilibre financier, tu n'as plus besoin de vendre. Ce qui n'est pas du tout pareil, parce qu'au final, tu es en train de me dire... parce que tu me dis pourquoi Lille... Tu me dis pourquoi Lille n'a pas vendu Rami. Non, ils l'ont pas vendu, mais ils ont résisté à Marseille, mais ils ont tendu le fion à Lyon. Et c'est comme ça que ça marche.
Non, mais en fait, je t'explique. Au début de l'intersaison, avant même l'intersaison, Michel Sédou avait dit, on a un seul gros départ. La première, la plus grosse offre, c'est celle de Lyon pour Bastos.
Une fois que tu m'expliques en quoi, alors explique-moi en quoi ce que tu viens de me dire là, c'est à l'encontre du fait que, en Ligue 1, on est obligé de vendre ses meilleurs joueurs.
Ben voilà, je vais te dire tout simplement que Lyon a resté l'argent. Lille a résisté aux millions d'euros qui s'offraient à lui en disant ok on laisse
mais
partir.
Mais quoi ils ont vendu Bastos? Tu me tu es en train de m'expliquer qu'ils ont
mais
pas
ils ont qu'ils ont vendu Bastos ils ont aussi vendu Rami Cabaye ils ont vendu
Obradiak là ils auraient ça été absolument rien dire. Ton argumentation elle est basée. Toi, ce que tu vois, c'est tu as plusieurs observations et tu es en train de te gargariser parce qu'un club a réussi à retenir son troisième meilleur joueur, mais qu'ils ont été obligés de vendre leur meilleur joueur.
C'est ils ridicule. Ils ont été obligés de vendre. C'était dans une logique d'évolution de sa carrière.
Pourquoi ils ont vendu Bastos si c'était pas une obligation?
Mais t'as vu la saison qu'il fait Bastos? Bastos, il avait envie. Mais Bastos, s'il avait envie de franchir un palier, ok, il y a une grosse somme qui sort, et ben on le vend. C'est un peu logique aussi. Attends, attends, sinon, c'est des clubs de Ligue 1, réfléchis, il y a forcément plus fort que Lille. C'est toujours dans une logique aussi hiérarchique. Si t'es un petit club, forcément, il y a des clubs qui sont plus forts, qui jouent la Ligue des Champions, etc. Donc c'est logique que les meilleurs éléments des petits clubs veuillent aller voir ailleurs.
Arrête de dire, tu es en train de sortir une argumentation et un raisonnement, mais. C'est à la limite de l'intelligence, franchement. T'es en train de m'expliquer qu'ils ont résisté.
Ouais, t'as raison, c'est à la limite de l'intelligence.
Mais ils ont même pas tenté de résister. Quand tu as d'un côté le président et le directeur qui sont frères, ne va pas me dire qu'ils ont résisté à Marseille. C'est tout simplement qu'ils
savent. Mais c'est quoi cet argument de dire que les deux sont frères ou pas?
Ah non, ça change pas. Dans le débat, ça change pas. Non, mais j'espère que tu te fous de ma gueule, là.
Non mais c'est pas toi qui essayes de repartir sur un autre truc alors qu'on parle d'un sujet quoi, je comprends pas.
Bah oui, bah attends, tu es en train de me dire que tu comprends pas. Mais en fait, quand je t'explique qu'il refuse Lille parce qu'en fait, l'argent qu'il refuse pour Rami, ils vont le récupérer avec encore plus d'argent pour Bastos, tu me dis qu'il résiste.
Non, il résiste. On parle pas que d'argent. Mec, on parle de logique sportive aussi. Parce que là,
on ne parle pas de logique sportive si depuis le début, avec Mathieu, on est en train de dire que les clubs sont obligés de vendre leurs joueurs pour rester
Regarde, là, tu viens de dire leurs joueurs. Moi, je te parle du joueur qu'ils ont vendu, Lille. Ils ont gardé plein de bons éléments. C'est ça que je veux te faire dire. C'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une évolution dans le foot français et en Ligue 1. Le club qui garde des joueurs.
Ils étaient obligés de vendre Bastos.
J'ai pas entendu.
Ils étaient obligés de vendre Bastos.
Mais non, mais en tout cas.
Ne commence pas par me dire, mais non, si le jour est parti. Ça te met hors de moi. Parce que ça ne veut rien dire.
Non, parce que tu me dis. Attends, il y a une phrase.
Si tu me dis. Si tu commences par baisse, je t'écoute. Tu me dis, mais non, alors que le jour s'est barré.
Regarde, tu me dis, ils étaient obligés. Je te dis, non, ils n'étaient pas obligés.
Alors explique-moi. Maintenant, je te pose la question et je te promets, je le tais.
Je crois que ça s'appelle.
Je te le promets. Je pose ma question, je t'entends. J'entends jusqu'à la fin, jusqu'à que tu me dises stop et je te réponds. Pourquoi ils ont vendu?
Non, mais c'est tout simplement qu'il y avait une offre suffisamment conséquente et que je te répète qu'au début du mercato, Michel Sédou avait dit on aura un seul de nos joueurs qui s'en va, justement, eh bien, pour essayer de conserver une certaine compétitivité au plan sportif. Et ça prouve bien qu'il y a une évolution dans la mentalité des clubs français et que c'est pas comme justement parce qu'on repart du début, on a dit Le Mans, ils ont bradé plein de joueurs. Et c'est vrai qu'ils ont bradé quand même pas mal de joueurs. En tout cas, ils ont vendu pas mal de joueurs d'un coup. Justement, et ben les clubs français, ils essayent de retenir la leçon. Et à l'image de Toulouse qui lâche pas sur Gignac, à l'image de Lille qui lâche qu'un seul des joueurs et qui essaye de faire comprendre aux autres joueurs, et bien justement leur intérêt. Et je pense que Rami, il a compris l'intérêt de Lille et maintenant il s'investit à fond. Tout comme Cabaye qui a quand même eu un peu de mal et tout comme Obraniak. Et c'est la même chose à Rennes. Et ben voilà, les clubs, ils ont réussi à faire comprendre à leurs meilleurs éléments qu'ils avaient encore besoin d'eux pour une, pour deux saisons. Et c'est en cela que je dis qu'il y a une évolution et qu'on peut pas dire que tous les clubs français, eh bien, bradent tous les, que le cas de Le Mans, c'est le cas de tous les clubs français ou presque. C'est faux. Voilà.
Bah déjà, je vais répondre pour plusieurs choses. Déjà, quand tu commences par me dire que les Lillois bradent leurs joueurs, chapeau, hein.
Ah, je t'ai pas dit ça.
Tu as dit bradé. Non. Juste, il y a un moment, la mauvaise foi, ça m'écœure. Quand tu as dit tout à l'heure bradé, putain, je me suis tué pour t'écouter exactement ce que t'allais dire. Tu as dit bradé. On peut demander aux autres animateurs s'ils ont entendu bradé ou pas.
Mais je t'ai dit Le Mans a bradé pas Lille, putain.
Mais la question.
D'ailleurs, ma grand-mère est en train de brader un t-shirt juste à côté
de moi. Tu es en train de me dire, mais c'est toujours la même chose. Tu me dis que le club a fait comprendre aux joueurs qu'ils devaient rester dans le pour. Mais ils n'ont pas rien fait comprendre. Ils ont mais tout simplement dit. Non. Faire comprendre à un joueur qu'il doit rester, c'est quand le joueur au début de mercato te dit je veux partir, puis à un moment il dit. Non, je désire relever le challenge lillois. Eux, ils l'ont pas dit.
Et ouais, bah, c'est ce que Rami a fait. Eh ouais.
Et mais Rami, il a pas dit ça. Rami, à partir du moment où le. Mais arrête. Rami, à partir du moment où il a vu que les Lillois ne le vendaient pas, il était obligé, parce que sinon, il ne joue pas. Donc, à partir de là, c'est pas les Lyonnais, c'est pas les Lillois qui l'ont fait comprendre. Il y a eu aucune évolution. Ça a été un rapport de force perdu par le joueur.
Non, au début, les dirigeants.
Ah non,
s'il y a une possibilité que tu t'en ailles, c'est possible. Vu que Bastos est parti, bah voilà, on veut pas vendre plusieurs joueurs, on veut pas s'affaiblir au niveau sportif. Forcément, la pilule, elle a été dure à avaler, c'est clair. Mais de fait, maintenant, il fait quand même des bons matchs avec Lille et tout.
Mais donc voilà, match, c'est pas utile. Non mais c'est con ou possible de dire que il a avalé la pilule et que ton justificatif c'est qu'il fait de bons matchs. Il fait de bons matchs pour se barrer l'an d'après. Il en a rien à foutre de Lille.
Bah,
quand il fait caca nerveux pendant. D'ailleurs, autre chose, autre élément.
Il en a rien à foutre de Lille.
Fait son caca nerveux pendant tout l'été. Non, Rami fait son caca nerveux pendant tout l'été jusqu'à Kainz et Signe.
C'est clair, c'était 2 semaines, quoi. Voire 2 jours, quoi. Pendant 2 jours, il a fait le tour des radios.
Mais Abib.
Il est passé 4 fois à la terre en 3 semaines. Et tu me dis,
je sais ce qu'il veut dire.
En 3 semaines.
Ce qu'il veut dire, c'est que lui, il pense qu'il y a un changement.
Son argumentation, elle est basée sur le fait que Lille, sportivement, reste compétitif alors qu'ils ont vendu leur meilleur joueur. Chapeau. Franchement, celle-là, elle est énorme.
Alors là, tu vois, si tu m'avais un peu écouté, j'ai pas parlé que de Lille, j'ai parlé de Lille, j'ai parlé de Toulouse, j'ai parlé de Rennes.
Toulouse, ils l'ont fait une fois, ça. Mais arrête, putain, Toulouse, ils le font une fois, et pour toi, c'est devenu un monument de solidité de la Ligue 1.
Est-ce que j'ai dit ça? Pas du tout, mais tu défends. Donc moi, j'arrête pas de te parler, parce que tu défends tout ce que je dis, mec. Ça sert à quoi que j'intervienne sur GS?
Parce que tu ne comprends pas ce qu'on dit. Quand je pars du principe, on est en train de parler d'une logique économique, ensuite toi tu arrives et tu me dis logique sportive, quand je te dis quasiment tous les clubs dans des proportions différentes et que toi tu arrives et tu me dis tous les clubs, c'est toi qui n'écoutes pas. Je n'ai jamais dit tous les clubs, j'ai dit quasiment tous les clubs. Et je n'ai pas dit qu'ils font tous la même chose, j'ai dit dans des proportions différentes. Toi tu arrives et tu dis ils font tous la même chose ou presque. Bah non, ça veut plus rien dire.
Non mais c'est bon, il est plus là, il a fait un infarctus là. Mais
attends, moi j'aimerais dire un truc à Bib. Lui, ce que je pense, d'après ce que j'ai compris, je l'ai écouté parler, il pense, c'est sa théorie en gros. Il pense que les clubs français, qui pour lui il y a un changement, qu'à une époque par exemple Lille aurait vendu Rami, aurait vendu tous ces 3 ou 4 joueurs, et lui pense qu'il y a un changement, que maintenant les clubs, certains clubs résistent et certains clubs ne vendent qu'un joueur. C'est ça.
Mais si tu vends un joueur,
parce qu'à une époque le Mans aurait...
voilà. Ouais, mais ça. Si tu vends un joueur, tu résistes plus. Si t'es obligé de vendre ton meilleur joueur, tu résistes plus.
Mais si, parce qu'il a raison, parce qu'au lieu, par exemple, là où ils auraient vendu 3 joueurs il y a quelques années, cette fois-ci, ils en vendent qu'un.
Parce qu'ils ont, justement, de l'argent des autres années. Donc c'est pas question de résister ou pas. À partir du moment que tu sais que tu n'as pas besoin de financier, résister, c'est quand tu essaies de te dire, j'ai le choix entre ça ou ça. Eux, ils avaient besoin de vendre un seul joueur. Bah, quitte à le vendre, ils ont vendu aux frères lyonnais. Et me dites pas que ça n'a pas de relation.
C'est non, mais ça, on est d'accord avec ça. Mais lui, ce qu'il voulait dire, c'est que lui, il pense qu'il y a un changement. Il se dit que si il n'y avait pas eu ce changement-là, peut-être que Lille aurait vendu Rami aussi, et que certains clubs auraient vendu 2 ou 3 joueurs au lieu d'un seul ou pas du tout. C'est juste ça qu'il voulait dire, lui.
Ouais. S'il base son interprétation sur un mercato, ben bravo.
C'est juste un constat. Il n'a pas dit qu'il se basait sur un mercato, mais c'est.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Bah, vas-y Fabien.
J'ai pas compris, t'as dit que ils ont vendu un joueur, ils ont vendu au plus offrant, c'est exactement ce que je te disais, je comprends pas.
Bah putain, mais c'est pas possible! Je pars du principe que je t'explique, moi, depuis 3 heures, que si tu vends ton meilleur joueur, tu ne résistes pas, et toi tu arrives et tu me fais, c'est exactement ce que j'ai dit. Mais tu te fous de ma gueule. Tu veux que je me mette une pub dans le cul et que je lance la Macarena ou quoi? Mais ça veut absolument rien dire. Moi je te répète encore une fois, si tu vends ton meilleur joueur, tu ne résistes pas. C'est très simple.
De toute façon, c'est pas du tout ça. Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a rien suivi à Lille. T'es pas au courant du truc qui se passe à Lille, au LOSC, de tout ce qui s'est passé avant avec Rudy Garcia qui s'est fait virer ou pas, et même les plusieurs joueurs. Donc tu peux pas parler de ça. T'es en train de
me sortir. Toi tu es au courant? Est-ce que toi tu es au courant?
Mais bien sûr, je suis au courant.
Bah alors qu'est-ce qui s'est passé? Éclaire du lanterne.
Mais depuis tout à l'heure, j'essaie de t'expliquer, tu parles, tu me coupes tout le temps la parole, on se coupe la parole, tu m'écoutes pas, et donc,
j'ai fait une pause de silence pour te laisser parler. Au passage, tu ne me l'as même pas concédé quand je te répondais, me donne pas des leçons de savoir-vivre. Excuse-moi.
Mais non, mais
explique-moi en quoi. Non, là encore, je me tais après ma question. Explique-moi en quoi. Avant ton meilleur joueur, c'est un signe de résistance.
Mais c'est pas ça, c'est qu'il y avait plusieurs joueurs qui étaient susceptibles de s'en aller. Et ça, c'est une évolution parce que on parlait du Mans. Le Mans, ils ont vendu plusieurs joueurs à la fois. Et là, c'est
voilà,
et là,
l'argent
ils vendent un joueur.
Parce qu'ils n'avaient pas d'argent du tout.
Le Mans. Et ça montre bien que Lille, c'est un club qui est en devenir.
Et parce que le Mans, quand ils vendent un joueur, ils ne le vendent pas à 18 millions.
Rami a été appelé en équipe de France. Donc, ils sont susceptibles de garder un joueur qui joue en équipe de France. Un joueur espoir comme Cabaye. Un mec comme Obraniak, international polonais. Donc, est-ce que ça, c'est pas un signe d'évolution des clubs français?
Juste une chose sur Cabaye. Excuse-moi, sur Cabaye. Cabaye a une clause dans son contrat de 7 millions. Donc, ils n'ont pas résisté. C'est les autres qui n'ont pas donné l'argent. Tout simplement. C'est un prix fixé. Donc, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec Nasri et Arsenal. C'était fixé dans le contrat. C'est pas Marseille qui a résisté ou pas résisté. C'était dans le contrat. Cabaye, c'est Bordeaux qui a pas voulu.
Donc là, à chaque fois, tu me reprends sur des petits cas particuliers, mais l'idée globale, t'essayes pas de la
saisir. Non, l'idée globale, je te la redis pour la 12e fois. Si tu vends ton meilleur joueur, tu ne résistes pas.
Ouais, d'accord, super. Quelle ouverture d'esprit. Bravo.
En quoi ton idée est meilleure alors?
Bah non, mais c'est pas de quelqu'un est meilleur que l'autre, c'est ton ouverture d'esprit est pitoyable. Voilà,
c'est ah oui, mais c'est pitoyable. Toi, depuis tout à l'heure, tu es en train de me dire que tu es en train de nous faire là un petit un grand message à la Gandhi avec ton ouverture d'esprit est pitoyable et patati et patata, et tu m'expliques qu'il n'y a pas de meilleur ou de moins bien, mais depuis tout à l'heure, tu soutiens que ton idée est meilleure. Donc au moins et l'audace de ne pas d'assumer le fait que tu dis de la merde. Si tu as un raisonnement
clairement dit de la merde. Mais
bravo. Le mec qui nous explique à chaque fois qu'on a l'occasion que les clubs français sont les meilleurs du monde, qui travaillent le mieux du monde, va me donner des leçons d'objectivité.
Ah ouais, non mais j'ai clairement dit ça, bravo. T'as totalement raison.
Arrête! On peut ressortir le nombre d'animateurs qui sont là. Ils savent tous qu'à chaque fois qu'on parle de Ligue 1, t'es là à nous expliquer que c'est super comment ça marche en Ligue 1. On a eu la dernière fois un débat avec Dizzy où tu nous expliquais que la Ligue 1 était beaucoup, mais beaucoup mieux que la Bundesliga.
Ouais, tu vois, t'as eu une petite hésitation, mais tu racontes que de la merde, gars. T'es en train d'halluciner, c'est assez énorme.
Où est-ce que j'ai eu l'hésitation? Je te dis Dizzy, Bundesliga, toi.
Non, mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. Franchement, mais de toute façon, c'est pas du tout le débat.
Je te repose la question.
De dévier pour te rassurer.
Tu restes dans la dominelle parce que tu n'as pas d'argument. Je te repose la question. En quoi vendre ton meilleur joueur, c'est un signe de résistance?
Mais je te répondrai pas, je t'ai déjà répondu tout à l'heure.
Alors réponds-moi. Pourquoi tu es en train de fuir là? Réponds-moi si ton argumentation est aussi solide que tu le penses.
Mais franchement, mais c'est n'importe. Franchement, non, mec, tu devrais te regarder dans une glace avant de me poser des questions comme ça. Ça fait 15 fois que tu me la poses, ça fait 15 fois que je te réponds.
Réponds-moi encore.
Mais parce que t'avais tout un tas de joueurs qui voulaient s'en aller et Lille en a sorti. Et Lille a cédé sur un truc parce qu'ils ont dit, ils ont fixé clairement
le meilleur.
Il y aura un seul départ. Il y avait plein de joueurs qui voulaient s'en aller. Ils ont réussi à leur faire comprendre que dans l'intérêt du club et dans leur intérêt, eh bien, c'était de rester à Lille. Ils ont pas cédé, je suis désolé.
Et alors,
c'est
la première fois
que Lille est en train de monter. Voilà, c'est tout. Si tu veux pas être d'accord avec moi, t'es pas d'accord avec moi, mais tu dis pas que je dis de la merde parce que c'est totalement.
Mais c'est toi qui commences à dire que je dis de la merde! En me parlant de mon ouverture d'esprit, et maintenant tu me donnes des leçons! Mais tu es un grand malade!
Bon, les mecs, là, je crois que ça va être
tout de suite. Je pense que oui, t'as raison, Tuco. Ça devient inaudible. On va pouvoir arrêter là. Je pense que voilà, 2 heures d'émission.
Non, volontairement, on va pouvoir arrêter là.
Au bout d'un moment, ça fait mal aux oreilles. On va arrêter là. Ça fait 23 heures. Pour finir, je vais dire une petite réaction de Fab qui nous l'a dit il y a longtemps, mais j'ai pas eu le temps de la placer. Entre Le Mans et Auxerre, vous venez de vous mettre à dos 0,15% des fans de football français. Voilà. Donc on va conclure.
De toute façon, on parle ou on parle pas, on est tout le temps critiqué. Donc bon, un peu plus, un peu moins, c'est pas grave.
Hein. Les Domenech de soccer.
Voilà, on va pouvoir, on va pouvoir arrêter là. Bonsoir à tous. Bonne nuit, c'est les vacances. Vous couchez pas trop tard.
Pas pour moi, c'est bizarre.
Génération Soccer, en partenariat avec l'AS Beauvais.